Bonjour, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation de jubilé, de baptême. Je suis conscient que c'est un peu particulier parce que j'ai jamais entendu parler, moi non plus, de jubilé, de baptême, mais j'avais envie de saisir cette occasion d'avoir été baptisé il y a 50 ans pour dire combien le Seigneur a été fidèle durant toutes ces années. Et je voulais saisir cette occasion d'une part pour lui dire, mais aussi d'autre part pour vous témoigner de ce que Jésus a fait, a vécu, ce qu'on a vécu ensemble. Je vais juste dire ça comme ça, quoi. Alors certains m'ont dit, mais c'est quoi le jubilé ? Donc je vais prendre un texte biblique qui se trouve dans le Lévitique au chapitre 25, le verset 9. Qui nous dit ceci, le dixième jour du septième mois, le grand jour du pardon des péchés, vous ferez retentir dans tout le pays une sonnerie de trompette accompagnée d'une ovation. De cette manière, vous manifesterez que la cinquantième année est consacrée à Dieu. Et vous proclamerez la libération de tous les esclaves pour tous les habitants du pays. Cette année portera le nom de jubilé. À cette occasion, chacun d'entre vous pourra à nouveau rentrer en possession dans ses terres et regagner sa famille. Jubilé, ça veut donc dire, sur le plan étymologique, corne de bélier ou trompette. Du fait que cette année-là, on soufflait d'une manière particulière du chauffard pour proclamer la libération. Une année où les personnes pouvaient à nouveau entrer en héritage de ce qu'ils avaient perdu parce que, pour une raison ou une autre, ils avaient été esclaves parce qu'ils n'ont pas su honorer leurs dettes. Donc on leur prenait ici un champ, ici on faisait des enfants des esclaves. On voit ça dans la Bible. Voilà, en particulier dans l'Ancien Testament. Donc 50, c'était une année particulière parce que après 7 années multipliées par 7, ça fait 49, plus une année qui s'appelle donc l'année du jubilé. Personnellement, il y a plusieurs choses qui me motivent. Tout d'abord, je veux remercier le Seigneur de qui il est et de ce qu'il a fait, je le disais tout à l'heure, pour moi, qu'est-ce qu'il a fait pour moi dans ma vie et comment il a conduit et dirigé ma vie jusque-là. Je voulais aussi, au travers de ce jubilé, honorer ceux qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. J'avais, ces dernières semaines, écrit à deux familles en particulier pour leur dire que je leur dédiais cette rencontre. Donc, je veux le dire parce que je crois que c'est important de pouvoir honorer les personnes qui nous ont aidés dans notre vie, et dans ma vie spirituelle. Et ceux qui ont été là pour m'accueillir, je pense en particulier à Lucien et Marc Burger, ils habitent en Alsace. Chaque semaine, ils me recevaient chez eux, autour d'un café, pour répondre aux 10 000 questions que j'avais. Ils ont été là pour moi, et ils ont été patients, et même lorsque j'étais pas forcément d'accord, patiemment, ils m'expliquaient les textes bibliques et ce qu'était un disciple du Christ. Et puis un autre couple à qui j'ai écrit, c'est Jean et Suzy Peterschmidt. Ils ont été mon premier couple pastoral. Ils m'ont aussi, à un moment donné, accueilli pendant quelques mois chez eux, à la maison, au sein de leur famille. Je pense en particulier pour l'ouverture et la patience qu'a eu Jean-Peterschmidt envers moi, parce que j'étais pas quelqu'un de très docile et de toujours facile. Et puis ce matin, j'ai aussi donné un petit coup de fil à un couple qui s'est fait baptiser en même temps que moi. C'est Claude et Betty Renck. Ils ont été pasteurs aussi en Alsace et ils étaient venus au Seigneur parce que Betty était stérile. Et le pasteur Jean a prié pour elle et ils ont eu un fils qui s'appelle Didier, qui est lui aussi pasteur d'une église en Alsace. Voilà, juste, c'est la petite histoire. Et j'étais très heureux de pouvoir être encore en contact avec ce couple, avec qui nous avons le même jour pris le baptême. C'était dans une petite salle, dans un petit magasin. Ils avaient mis une baignoire qui chauffait par en dessous avec un but à gaz. Enfin bon, c'était très spartiate, c'était un peu particulier, mais bon, nous, on était tellement contents de pouvoir nous engager à marcher et à vivre avec Jésus-Christ. C'est une joie et un honneur de marcher avec Jésus-Christ. C'est vraiment ce que je voudrais dire. Seigneur, c'est un honneur de marcher avec toi. C'est toi qui as fait en sorte que je puisse te connaître et c'est toi qui m'as gardé durant toutes ces années. C'est quelque chose de fort pour moi. Je vais vous raconter pourquoi, mais j'ai dû faire un choix forcément. Depuis 50 ans de vie d'aventure avec Jésus. Alors je vais essayer d'être concis, mais forcément ce sera un peu difficile de l'être tout le temps parce que le vécu est quand même particulier. C'est un témoignage qui se veut aussi être des enseignements pour nous, pour vous, pour moi. Et puis je pense être sans concession vis-à-vis de moi-même. Voilà, il n'y a pas de raison que je me fasse des cadeaux. Je veux dire les choses telles qu'elles sont, aussi crûment parfois qu'il le faut. Je vais vous parler un tout petit peu de mon enfance et de la manière dont le Seigneur s'est révélé à moi. Pas tout raconter en détail parce que rien que le témoignage de découverte du Christ est assez long. Ce que je veux dire, c'est que sur le bureau de mon ordinateur, lorsque je l'ouvre, il y a un verset biblique qui dit ceci, c'est le psaume 22 au verset 10. « Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. » Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. En fait, ma maman, j'avais une dizaine d'années, m'a dit, alors je ne sais plus à quelle occasion, mais m'a dit, tu sais, lorsque j'ai su que j'étais enceinte de toi, pour ton père et pour moi, c'était une catastrophe. J'avais réussi à avorter l'enfant que je portais avant toi, j'ai réussi à avorter l'enfant que j'ai eu et que je portais après toi, mais toi j'ai essayé, puis j'ai jamais réussi à t'avorter. Et puisqu'on habitait en Alsace, ma mère disait, comme si elle voulait appuyer ce fait de ne pas être désirée, si on avait eu les finances, je serais allé en Allemagne pour me faire avorter. Bon, voilà, je n'étais pas voulu, je n'ai pas été désiré, et je suis né pour mes parents sous le signe de la catastrophe. Mais dès le sein maternel, j'ai été sous la garde du Seigneur, parce que lui m'a voulu, lui a désiré que j'existe. Lui a voulu se révéler à moi. À la maison, c'était très compliqué. Mon père frappait ma mère. Je la voyais par terre. Il lui mettait des coups de pied dessus. Mon père était violent et nous aussi, on prenait des coups. Moi, je suis le dernier, donc, d'une fratrie de 5. Et ma mère, vu l'ambiance compliquée et difficile à la maison, faisait des dépressions nerveuses. Et un jour, elle a été hospitalisée, donc après, je ne me rappelle plus, mais ça devait être 2-3 semaines, 1 mois peut-être. Mon père, avec mon autre sœur, on a été la visiter. Et là, ça a été vraiment un choc parce que j'ai vu ma mère. Elle était sur un lit, pieds et mains tachés, des barreaux aux fenêtres. Et ça m'a... Ça m'a bouleversé, ça m'a choqué, ça a produit effectivement un choc. Et puis le médecin est passé avec sa cohorte de personnes, certainement des étudiants, et nous voyant, il a dit « mais libérez donc cette femme devant les gosses ou devant les gamins ». Et cette parole et ce que j'ai vu m'a tellement bouleversé que ce jour-là ou dans les jours qui ont suivi, j'ai décidé de tuer mon père. J'avais une 12aine d'années. Je me suis dit, mais je veux le tuer parce que il nous fait mal. Et alors que j'étais tellement jeune, je me disais, mais je veux pas le tuer avec une arme à feu ou un couteau parce que c'est trop rapide. Et il faut que je le tue comme je vois qu'il frappe ma mère. Et donc je suis devenu, comment dire, pas vraiment un délinquant, mais je suis devenu difficile. Lorsque j'allais à l'école, je frappais les gens qui me regardaient de travers. Enfin bref, je voulais dans mon idée, c'était il faut que je m'exerce à tuer mon père de cette manière-là, mais je peux pas maintenant parce que mon père est quand même bien plus fort que moi. Donc c'était pour moi un exercice. C'était tellement compliqué que mes parents m'ont mis nourri logé après chez un patron dès l'âge de 14 ans. J'ai fait un apprentissage de pâtisserie où j'étais exploité. Voilà, j'avais 14 ans et je faisais entre 65 et 75 heures de travail par semaine. En hiver, il faisait tellement froid dans cette mansarde au grenier sans chauffage que on n'arrivait même pas à enlever avec les ongles le givre qu'il y avait sur les fenêtres, mais pas à l'extérieur, à l'intérieur. Bon, bref, ça a été un peu compliqué aussi cet apprentissage où là non plus je me laissais pas trop faire. Et finalement, au fur et à mesure que je prenais de l'âge, je prenais aussi une certaine assurance, mais je devenais un peu compliqué, un peu difficile, un peu pour tout le monde. Mais c'est à peu près à cette époque-là que ma mère, qui était sortie de l'hôpital psychiatrique, avait entendu parler de réunions chrétiennes, elle y a été, et elle a rencontré Jésus d'une manière toute nouvelle. Elle était d'origine catholique, mon père avait été témoin de Jéhovah. Ça avait été un peu compliqué notre éducation religieuse, parce que mes parents, l'un voulait pas qu'on aille chez les témoins de Jéhovah, l'autre voulait pas qu'on aille chez les cathos. Alors ils nous ont mis un jour tous les 5 à l'église réformée. Mais bon, j'étais tellement turbulent que j'étais à attendre mon frère et ma sœur dehors parce que les animateurs n'arrivaient pas à faire leur leçon, leur animation. Voilà, c'est un encouragement à tous ceux qui travaillent parmi les enfants et qui sont difficiles, continuer, persévérer, parce que finalement, il y a du fruit, même si c'est parfois difficile. Donc ma maman allait à des réunions chrétiennes. Elle me disait sans cesse, viens, mais bon, maman, c'est bien pour toi. Voilà, j'étais pas vraiment intéressé. Mais un jour de vacances avec ma sœur, on se dit, bah, tiens, on va la chercher à la fin de sa réunion. Donc on a été. Les gens sortaient de cette salle, mais on voyait pas notre mère sortir. Alors je suis allé voir si elle était là encore, et finalement oui, elle était en train de discuter avec le pasteur. Et ce soir-là, je dis, c'est vraiment un espèce de tournant dans ma vie, parce que j'ai vu que la fille du pasteur était mignonne. Et je me suis dit, je vais. C'est quand ta réunion, maman? Parce que je voulais draguer la fille du pasteur. Et pendant 5-6 mois, je suis allé deux fois par semaine aux réunions. Je m'asseyais à côté de la fille du pasteur et je la draguais. Mais en même temps, j'étais obligé d'entendre ce qui s'y passait. Et j'étais assez impressionné par les. Parce que disaient les personnes, toutes, quelle que soit leur rang social, elles disaient, mais depuis que j'ai rencontré Jésus, ça a changé, transformé ma vie. Donc j'ai dit un jour à Dieu, écoute, si c'est vrai, manifeste-toi aussi dans ma vie, je voudrais bien voir, moi. Je crois que j'étais sincère, mais je savais pas où est-ce que ça allait m'emmener. D'ailleurs, j'y réfléchissais pas trop. Dieu ne m'est pas apparu, mais deux, trois jours après, je me suis dit, mais mince, je n'arrive plus à traverser la rue pour aller casser la gueule à quelqu'un. Et puis tout d'un coup, mince, le projet de tuer mon père, ça va plus, ça marche pas. J'ai plus la niaque, la haine pour cela, et j'ai pris peur. J'ai eu peur en me disant, mais qu'est-ce qu'ils me font? Qu'est-ce qui se passe? Et donc j'ai plus voulu retourner à l'église en disant, mais non, ils me font quelque chose. Bon, et puis ma mère qui priait, qui me disait, mais va donc voir le pasteur. Alors, ça a duré, là non plus, je sais pas trop dire combien de temps, mais 4, 5 mois, 6 mois peut-être, où je suis pas retourné. Puis sur l'insistance de ma mère, je suis allé voir le pasteur en lui disant, mais voilà ce qui s'est passé. Alors lui, il me dit, mais le Seigneur a exaucé ta prière. Je me suis mis en colère, mais de quoi il se mêle? J'avais pas envie qu'il se manifeste comme ça. Alors lui, d'une manière assez gentille, il me disait, mais c'est le Seigneur, il répond d'une manière ou d'une autre, mais voilà, t'as prié, il a répondu, maintenant, c'est à toi de choisir. Et il a été assez sympa. Il m'a pas dit tu dois, tu faut, il faut, etc. Il a juste dit, mais Bernard, il y a devant toi deux chemins. Soit tu continues ta vie comme tu le veux, mais regarde autour de toi, où est-ce que ça te mène, regarde tes frères et sœurs. Sinon, il y a l'autre chemin, c'est le chemin que Jésus te propose. Donc, il a prié pour moi, puis on s'est séparés. Et quelques temps après, les choses me revenaient, et finalement, j'ai fait une prière. Seigneur, si c'est toi qui as mis de l'harmonie dans la nature, le soleil, la pluie, les cycles, les saisons, si c'est toi qui as mis de l'harmonie dans la nature, alors viens aussi mettre de l'harmonie dans ma vie, si tu peux. Et finalement, c'est comme ça que je me suis tourné vers le Seigneur. Et à un moment donné, je me suis engagé avec lui en disant, mais ok, je crois que tu existes. J'ai conscience que tu m'aimes et je veux marcher avec toi. Donc à cette époque-là, dans l'église, il y avait une quarantaine de personnes. Actuellement, cette église, c'est plus de 2000. Pour moi, ça a été important, ce temps de baptême, parce que c'était un temps où je décidais de suivre et de marcher avec le Seigneur. Pourtant, ma vie a changé, mais quand même, pas du jour au lendemain. Je dois être honnête, ça a été compliqué, ça a été difficile. J'avais eu une éducation plutôt tordue qui m'influençait dans la vie. Et bien que baptisé d'eau, baptisé de l'esprit, voilà, pour prendre un exemple, je prenais le train sans payer et je disais mais je ne vole personne parce que je sois dans le train ou pas dans le train il s'en va quand même quoi. J'avais comme ça autant d'idées qui ne correspondaient pas forcément au fait d'être disciple de Jésus-Christ. Et c'était effectivement un peu plus compliqué lorsque j'étais pris en stop. Je faisais du stop dès l'âge de 14 ans. Combien de fois j'ai été pris par des gars qui, au bout d'un moment, mettaient leurs mains sur mes cuisses en me demandant si je pouvais pas, si je voulais accepter qu'ils aillent plus loin, etc., qu'ils demandaient une relation sexuelle. Alors, bon, c'était compliqué, hein. Je sortais un poignard que j'avais mis dans mes chaussettes. Et puis, je demandais aux gens, je disais, mais maintenant, tu m'emmènes là où je veux, quoi. J'étais baptisé d'eau et d'esprit, mais je me rappelle d'un jour à Strasbourg où en face de la gare il y avait des urinoirs et une personne se masturbait devant moi là aussi je lui ai mis le poignard sur le cou. Ça craignait, c'était chaud comme on dit quoi. J'étais viscéralement devenu homophobe jusqu'à ce que, des années plus tard, avec Daniel, nous avons accueilli une personne homosexuelle, mais et les choses ont changé chez moi. Je me suis mis à pleurer devant sa souffrance, mais pour vous dire que ça a été un peu compliqué. C'est pareil, j'ai été à l'armée. J'avais pas vraiment envie d'y aller, mais au bout de 3 semaines, j'avais déjà pris 45 jours de tôle, de prison. Voilà, en Allemagne, un mois de plus parce qu'il fallait surveiller une porte qui s'ouvrait jamais. Il y avait 1,50 m de neige. J'avais un fusil qui était même pas chargé à blanc. Et je me suis dit, mais non, c'est n'importe quoi. Pas rester là la nuit à veiller sur rien, donc je suis allé me coucher laissant le fusil là, et donc ça n'a pas trop plu à mes supérieurs. Et bon, à cette époque là j'en faisais tellement voir aussi à l'armée que j'ai été menacé d'être emprisonné dans une forteresse parce que j'étais insoumis, désinvolte, défiant l'autorité. Bon, voilà, mais c'est un peu compliqué. Je n'arrivais pas à être enfermé dans un schéma étriqué. D'ailleurs, ça reste vrai un peu aujourd'hui, hein. J'ai besoin d'une certaine liberté. J'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'espace. Enfant, pour survivre, je m'étais construit sur la base du « je m'en fous ». Ça me permettait de prendre de la distance entre ce que je vivais de compliqué. Je voyais les choses de loin. En tout cas, je prenais pas tout dans ma vie. Ça me permettait de vivre. Alors, en même temps, lorsque vous dites sans arrêt « je m'en fous, ben il n'y a plus grand-chose qui vous touche. Donc là aussi, il a fallu que je fasse des... Il a fallu que le Seigneur m'aide pour que je puisse vivre un peu autrement que de manière désinvolte. Tout ça pour dire que cette vie chaotique, cette vie chrétienne chaotique, a duré quand même 5 ans environ. Après avoir été baptisé d'eau, baptisé de l'esprit, où je vivais, lorsque j'étais dans des églises, des dons, dont des paroles prophétiques, etc. Je donnais tout cela, mais ma vie était chaotique et ça ne correspondait pas avec la vie chrétienne normale, on va dire, ou la vie chrétienne dont espérait le pasteur, les responsables, là où je suis allé. Bon, je crois, enfin, je vous dis ça parce que aujourd'hui, je suis. Lorsque je vois une personne qui vient, qui est toxico, qui fume du shit, etc., je lui dis, mais viens quand même au culte. C'est pas parce que tu fumes du shit, c'est pas parce que ta vie est désorganisée, n'est pas ce qu'elle devrait être aux yeux du Seigneur, que la porte de l'église t'est fermée. Donc viens, continue à venir à l'église. Parce que probablement, quelque part, je repense à ma vie chaotique qui a duré 5 ans. Probablement, les gens, mais c'est même sûr, il y a des personnes qui disaient « mais on n'arrivera jamais à en tirer quoi que ce soit de Bernard. Trop compliqué, trop désinvolte, pas assez sérieux. » Bon, mais le Seigneur a fait de moi quelqu'un d'autre. Il a simplement fallu de la patience et puis un cheminement que dont le Seigneur s'est fait. Voilà, j'étais zélé pour Dieu. J'étais zélé pour le Seigneur. Et je voulais recevoir les dons. Mais je ne voulais pas me laisser enfermer. Je pense à un chant... On chantait « Jésus, mon sauveur, je t'aime ». Et je pense à ce couple dont je parlais tout à l'heure, de Lucien et Marthe. J'allais les voir en disant « mais on chante ce chant à l'église, « Jésus, mon sauveur, je t'aime ». Mais ben non, moi je le chante pas. Il n'y a pas de raison que je le chante puisque j'aime pas Jésus. Donc c'était cela, c'était des manières de voir assez vrai. J'avais quand même une soif d'authenticité, même si j'étais tordu par ailleurs. J'étais zélé donc pour le Seigneur. Je voulais recevoir des dons spirituels et le Seigneur m'en a accordé. J'avais été baptisé du Saint-Esprit en pleine nuit. En fait, dans cette église-là, dans le temps en tout cas, lorsque on prenait le baptême d'eau, le lendemain, on se retrouvait le soir chez le pasteur et puis on priait pour avoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et bon, je me rappelle qu'il m'avait trituré, enfin bousculé un peu dans tous les sens, j'étais plutôt fatigué. Mais voilà, si d'autres ont parlé en langue, ben c'était pas mon cas. Et rentrant ce soir-là chez moi à la maison, parce que c'était trop tard pour retourner chez mon patron, ben je suis allé dormir dans une mansarde qu'il y avait au grenier. Et là, en pleine nuit, j'ai été baptisé de l'Esprit. C'est-à-dire que il y a eu une onction du Saint-Esprit et j'étais bien et j'ai commencé à louer, à chanter Dieu à tel point que j'ai réveillé toute la maison. Alors si ma sœur était impressionnée en disant mais si ça, si Bernard vit ça, c'est que vraiment il y a du changement et du transformation dans sa vie. Par contre, mon frère qui était là de passage, me semble-t-il, disait mais si tu recommences, je te casse la gueule quoi. Hein, c'est voilà les manières étaient un peu différentes, mais j'avais soif et j'ai eu ce baptême de l'Esprit Saint dans cette mansarde où il y avait une armoire et dans cette armoire il y avait des livres occultes de mon père. Mon père avait été témoin de Jéhovah, je vous disais tout à l'heure, mais pour des raisons qui serait trop longue à expliquer, il a quitté les témoins de Jéhovah, puis il a commencé à faire à rechercher en tout cas la magie, l'occultisme, le spiritisme, au point que il avait demandé à ma mère, enfin c'est elle qui m'a raconté ça, hein, ton père me demandait de me mettre à plat ventre sur la table et puis il me lévitait, il me faisait de la lévitation. Et elle me disait aussi que elle avait été voir dans le garage, parce que mon père est resté des heures dans le garage, et puis là, elle s'est approchée sans bruit, et finalement, mon père était dans la pénombre, avec des bougies, et il se regardait dans une glace, mais finalement, dans le miroir, c'était le visage d'un démon qui apparaissait, et non pas celui de mon père. Donc bon, voilà, on a vécu cela un peu, mais tout ça pour vous dire que c'est dans cette pièce, dans cette chambre mansardée au grenier, que avec ces bouquins dans l'armoire, que j'ai été baptisé de l'Esprit. Et ça a vraiment changé ma vie. Et donc, j'étais ardent pour Dieu. Ah, Seigneur, donne-moi des dons spirituels. Parce que il est dit dans 1 Corinthiens 12 qu'il faut aspirer aux dons les meilleurs. Et puis le Seigneur m'a permis d'avoir, suite à ce baptême du Saint-Esprit, des visions, des paroles prophétiques. Je vivais des choses fortes au point que mon orgueil... s'est élevé, je le disais pas haute voix, mais je me disais, mais waouh, je suis beaucoup plus avancé que certaines personnes qui sont là depuis des années. Et voilà, j'étais orgueilleux jusqu'à ce que le Seigneur me permette que je regarde et que je lise dans Matthieu au chapitre 7, verset 22 par exemple, c'est pas tous ceux qui diront « Seigneur, Seigneur » qui seront sauvés, et puis les gens diront « Mais Seigneur, on a prié pour des gens pour qu'ils puissent être délivrés de démons, pour qu'ils soient guéris, etc. » Et le Seigneur leur dit « Je ne vous connais pas. » Waouh, ça a été pour moi une parole forte qui m'a... Voilà, j'étais comme si c'était au grenier, puis je suis tombé à la cave. Ça a été tellement difficile. Puis j'ai vécu des choses pas très simples non plus. Je me rappelle d'un... Il y avait une église allemande qui était là de passage, et il demandait à ce qu'on prie pour un jeune qui avait 15-16 ans, qui était hospitalisé. Et puis, dans ma fougue, j'ai prophétisé que le Seigneur allait le guérir, allait le sauver, etc. Et puis finalement, une semaine après, il est mort, quoi. Ah, ouf. Alors quand c'est comme ça, vous dites, ah ben, c'est, je me suis trompé, je vais plus jamais prophétiser, en fait vous faites un blocage. Et le pasteur mon pasteur a été très très chouette, il m'a pas condamné, il m'a pas dit enfin bref, il m'a pas cassé, viens Bernard, écoute, le jeune est décédé, mais mais viens. Et je me rappelle même d'un autre jeune qui était venu pour dire au pasteur, mais alors ce jeune, comment va-t-il? Et il le disait devant moi, et il me posait la question devant moi, et mon pasteur, d'une manière très sympa, très gentille, n'a pas vraiment répondu, enfin bref, parce que il voulait pas me mettre la honte devant lui, et j'ai trouvé ça, il avait du tact. Viens Bernard, viens, je vais te montrer, je vais te dire ce qu'il faut faire ou pas faire pour recevoir la pensée du Seigneur et pour ne pas se laisser emporter par tes émotions. Toi qui avais envie que ce jeune guérisse, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc j'ai dû apprendre aussi comment faire, comment vivre, comment recevoir les paroles du Seigneur, comment les rapporter. Le Seigneur a été bon. Et les... Voilà, ça a été pour moi des années où il m'a conduit, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été simple. Et pour parler d'échecs, moi, à l'âge de 15 ans, je savais pas lire, pas, en tout cas pas lire couramment. Et il y a une prof qui me disait, puisqu'on avait des cours une fois par semaine... La prof de français disait, mais de l'épine, lisez donc des bandes dessinées pour essayer d'apprendre à lire, parce que là, vous savez pas lire, quoi. Hein. Mais la soif, j'avais une telle soif du Seigneur que j'avais envie de lire la Bible. Et je lisais la Bible. Et finalement, au fur et à mesure, je lisais pas seulement le Nouveau Testament, mais aussi l'Ancien, parce que j'avais envie de savoir qu'est-ce que c'était que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Il y avait plein d'aventures, etc. Et donc, au fur et à mesure, finalement, c'est la Bible, c'est la lecture de la Bible qui m'a permis de savoir lire. Et lorsque j'y repense, je me dis, mais c'est complètement dingue, quoi. Parce que avant de rencontrer Jésus, j'étais quelqu'un qui ne savait pas lire. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui enseigne. Je suis un enseignant de la parole de Dieu. C'est, lorsqu'on y réfléchit, c'est complètement fou, quoi. Dieu change, transforme. Ma vie, en tout cas, il l'a changé, il l'a transformé. Voilà, à lui soit la gloire. J'ai cumulé pendant 3-4 ans des échecs successifs, mais compliqués. Je me suis fait virer de 2 écoles bibliques, sans parler d'autres rejets. J'ai failli... Ouais, c'était compliqué. J'ai fini par ne plus avoir confiance en moi et par nourrir un esprit d'infériorité qui est d'ailleurs aussi néfaste que l'esprit de supériorité et d'orgueil dont je parlais tout à l'heure. Lors des très rares fois où l'on me faisait des compliments, c'était un tel bienfait. J'avais tellement l'habitude... d'entendre des reproches, des choses qui n'allaient pas. Il a fallu qu'un jour, Daniel me rudoie pour que les choses bougent, que je prenne mes responsabilités et les attitudes que le Seigneur voulait que j'aie. Je suis arrivé dans une vie communautaire à Lille. C'est la formation que le Seigneur a choisie pour moi. Je suis arrivé à Lille, dans une grande maison, dans laquelle venaient de s'installer 2 couples et 2 enfants. Nous partagions, c'était une vie communautaire, hein. Je travaillais le matin comme pâtissier dans une grande entreprise, et puis mon salaire était à tout le monde. On partageait tout, Mais je dis, on partageait tout sauf nos conjoints quand même. Je préfère le dire. Voilà, lorsqu'on a quitté avec Daniel cette vie communautaire, la vie communautaire comptait quelques 45 personnes quand même. C'était pas rien. Je ne vous cache pas que nous avons connu de vives tensions dans ce lieu, surtout au début, parce que les responsables étaient d'un légalisme fou. Avec Daniel, nous nous sommes rencontrés donc dans ce cadre. Et au début, bien que fiancés, nous n'avions même pas le droit de nous tenir la main. Je parle même pas de nous bégoter, ce qu'on n'aurait pas fait d'ailleurs en public, hein. Mais nous tenir par la main, quand même, c'est bref. Et c'était difficile, c'était pénible. Et le responsable qui était le pasteur, ben j'avais des tensions aussi avec lui, au point que un jour, je me suis levé, on était en réunion communautaire, je me suis levé prêt à lui mettre une patate, quoi. Mais j'en pouvais plus. Et c'est Daniel qui était à côté de moi qui m'a, elle m'a remis sur chaise là, calme-toi. C'était chaud, quoi. Lui était pénible et moi j'avais encore besoin de transformation. On va dire ça comme ça aussi, hein. Et j'en profite pour juste vous dire que si en tant que pasteur vous me trouvez pénible, j'allais dire contentez-vous. Vous ne me voyez que 2 heures le dimanche, alors que moi j'étais, dans une vie communautaire, tous les jours avec lui. Et on avait des temps de prière à 6h30 le matin, et puis on se voyait régulièrement puisque on œuvrait ensemble. C'est à cette époque, avec Daniel, nous avons ouvert un café-bar chrétien. C'est un lieu où c'était un café et on allait dans les rues dire aux gens venez prendre un café chez nous et venez discuter. Donc les gens venaient discuter, alors des marginaux mais pas que. Mais on a vu des dizaines et des dizaines de personnes se tourner vers le Seigneur au travers de ce café-bar. Des fois, je me rappelle d'un gars, j'étais dans la salle de prière avec quelqu'un qui était en train de se tourner vers le Seigneur et j'étais agacé parce que j'entendais sans arrêt les WC. Je me disais, quel est le gamin qui sans arrêt touche les WC, la chasse d'eau, etc. Et puis finalement, je suis allé voir, c'était un autre gars qui était en train de vider sa drogue dans les WC, qui tirait la chasse d'eau en disant que au Seigneur, maintenant tu m'aides, Seigneur, parce que j'ai cette drogue, mais il était dealer, il se faisait appeler le sorcier, d'ailleurs. Et donc là, on a vu énormément de personnes se tourner vers le Seigneur. C'était quelquefois un peu tendu, un peu chaud, hein, parce qu'on accueillait des personnes qui venaient un peu de partout, y compris des anarchistes qui voulaient pas que ce lieu existe, et qui venaient pour le casser, le détruire, ou nous casser la figure. D'ailleurs, un jour, alors qu'on rentrait de promenade avec Étienne et Priscille, il y a un jeune qui m'attendait là. Et puis je lui dis, tiens, tu veux quelque chose? Et il me dit, oui, je viens te tuer. Dans ce cas-là, laisse ma femme et les enfants rentrer. Ça vaut pas la peine qu'ils voient comment tu me tues là sur le trottoir, quoi. Hein. Vous réalisez qu'il m'a pas tué, hein, puisque je suis là devant vous, hein. Mais c'était pas évident, hein. Nous sommes restés là dans cette structure communautaire pendant 5 ans. jusqu'à ce que le Seigneur nous envoie ici à Angers. Mais je veux dire que ça a été ces 5 ans de vie communautaire, une vraie formation un peu particulière. Je crois, et je vous le dis comme ça, mais une des prières qui était la mienne, c'était « Seigneur, change mon caractère, mais préserve ma personnalité ». Vous savez, ce sont deux choses différentes. Hein, le caractère, « Seigneur, si je dois être changé, transformé, transforme-moi, mais préserve la personnalité parce que j'ai pas envie non plus d'être quelqu'un de forcément je veux pas dire docile mais je veux pas être tout mou quoi, je veux pouvoir vivre d'une manière normale et le Seigneur a changé mon caractère même s'il y a encore des choses à changer mais il a préservé ma personnalité. Dans un tout autre registre, je voudrais vous parler des tentations. Parce que ça existe aussi, et parfois dans les églises, on occulte un peu ce sujet-là, parce que, bon, voilà, on se dit que c'est pas forcément un thème porteur, mais pour être vrai et honnête, je voudrais dire que je suis un homme. Je suis un homme avant d'être un mari, avant d'être un père, avant d'être même un pasteur. Je suis d'abord un homme. Je suis conscient de mes faiblesses, de mes failles, de mes travers. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai demandé plusieurs fois, ici à Angers, à ce que mon ministère soit audité par des pasteurs qui venaient de l'extérieur, parce que j'avais envie de savoir où, dans quel domaine j'étais bon, dans quel domaine il fallait que je fasse des progrès, ou dans quel domaine j'étais mauvais et que j'avais besoin, plus particulièrement, de complémentarité. Quelles sont les corrections dont j'avais besoin, comment me faire aider ici ou là. On a beau être disciple et aimer Jésus, la chair reste présente. Et ce, probablement jusqu'à la mort. Alors, j'ai connu des tentations, comme tout le monde, on dira, mais à Lille, par exemple, j'avais une collègue de travail. Elle était venue au café-bar, non pour chercher Dieu, mais cet après-midi-là, elle est venue en disant « Mais Bernard, viens, je suis venu au café-bar là, je suis venu te voir parce que j'ai besoin d'une relation sexuelle, viens, couche avec moi. » Je lui dis « Je suis pasteur, enfin, je suis chrétien, mais je peux pas, quoi, tu sais bien. » Elle dit « Oui, mais j'ai vraiment besoin, là. » Et puis, comme si ça suffisait pas, elle disait « Mais si jamais tu viens pas avec moi, je risque de prendre n'importe qui dans la rue et je risque de tomber sur quelqu'un qui est pas bien. Je risque. » Elle voulait me culpabiliser, en plus. Mais bon, voilà, j'ai pas cédé à la tentation, mais quand même, j'ai quand même dit à Daniel ce qui s'était passé, puis en lui disant, mais en plus, quand même, elle était bien foutue la fille, quoi. Hein, c'est, voilà, sur le plan physique, voilà, c'était une belle fille. Bon, et maintenant. On a aussi hébergé des filles chez nous. Je pense à une particulièrement où j'ai dû lui dire, écoute, par correction pour ma femme et pour les gamins, va te mettre un soutien-gorge, quoi, hein, parce que elle avait juste un t-shirt et ça se baladait un peu partout, quoi. Hein, je disais pour ma femme et mes gosses, mais je pense que c'était aussi et surtout pour moi, parce que là aussi c'était une belle fille et ça me troublait. Donc il fallait que je sois quelque part protégé. des troubles, voire de l'excitation que produisaient ces jeunes filles dans notre foyer. Un autre sujet de tentation, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est la question de l'orgueil. Parfois, quand on vient de loin, on a tendance à vouloir prouver aux autres et à soi-même qu'on est capable. Et quand on réussit, on prend un peu le melon. Je le disais tout à l'heure, avec les dons spirituels, mais c'était vrai aussi dans certaines pastorales. Vous savez, quand on a une grande gueule, on se fait voir, on se fait entendre, on se fait remarquer en tout cas. Et je sentais que dans une pastorale en particulier, une pastorale nationale, vu mon tempérament et ma grande gueule, on voulait me donner des responsabilités. Alors c'est très flatteur, mais je me suis dit, oula, Seigneur, si tu veux que je sois un leader en France, il faut pas que ce soit parce que j'ai une grande gueule ou pas parce que j'ai une personnalité comme cela. Je veux pas devancer le temps et je veux pas cela si c'est pas ta volonté. Donc pendant des années, je suis pas allé à des rencontres de pasteurs justement pour pas que du fait de ma personnalité, de ma grande gueule, on me mette dans une situation où le Seigneur ne me voulait pas. Donc c'est pour moi c'est important. Il fallait que je me protège de moi-même, que je me protège de l'orgueil. C'est ça un peu la tentation. Alors je suis tombé dans l'orgueil. Plusieurs fois d'ailleurs, j'ai pris le melon plusieurs fois, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais on n'est pas exempt, je ne le suis pas en tout cas. Le fait de savoir que tout le monde tombe en tentation ne me console absolument pas, quoi. Je me rappelle, ou j'ai en tout cas en pensée, cette prière qui dit, comment dire, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, si on se place délibérément devant les tentations. Il faut savoir prendre du recul et savoir se protéger soi-même quant aux tentations. Je voudrais vous parler maintenant d'autres choses encore, c'est des épreuves et de la souffrance. Ne vous en faites pas, il y a des bonnes choses qui arrivent aussi. Je préfère d'ailleurs terminer par des belles et bonnes choses, mais je peux pas non plus occulter les épreuves et la souffrance, parce que la vie chrétienne, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. C'est parfois compliqué, c'est parfois difficile. Donc, je ne peux pas passer outre ce chapitre. Dans les familles, il arrive quelquefois que nous ne soyons pas tendres les uns avec les autres. Et on peut se disputer, on peut avoir des désaccords, mais si c'est vrai dans les familles, dans votre famille, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, c'est vrai aussi dans l'église, dans les communautés, dans les assemblées, dans les groupes de maison, enfin que sais-je. Nous ne sommes pas toujours tendres les uns avec les autres. J'ai fait une première école biblique. Je me suis fait virer parce que j'étais tombé amoureux d'une étudiante, d'ailleurs qui m'avait cherché, hein, Si, c'est elle qui m'avait cherché. Nous avions le projet commun de partir comme missionnaire en Afrique. Mais bon, voilà, je me suis fait virer. On pourrait quand même dire que des années plus tard, comme quoi le Seigneur sait faire des clins d'œil. Cette école biblique m'avait demandé à venir ouvrir la session d'une nouvelle année d'école. Et j'étais l'orateur principal, comme quoi le Seigneur nous change, nous transforme. Mais bon, bref, je m'étais fait virer en tout cas de cette école biblique. J'ai dû partir pour une structure du côté de Montauban qui accueillait des marginaux, des drogués, des personnes en difficulté. Le soir, le pasteur rentrait chez lui et je restais seul avec entre 8 et 12 jeunes. Moi-même, à cette époque-là, je n'avais que 19 ans, quand même relativement jeune, pas forcément très mûr. Certaines nuits, n'ayant pu fouiller des gars qui arrivaient, ils venaient, bon ben voilà, des fois, le plus souvent, on les fouillait, on demandait à ce qu'ils déposent leur drogue, etc., mais on n'avait pas toujours le temps. Et là, ce jour-là, on n'avait pas eu le temps, et en fait, c'était pas du shit qui avait été distribué, mais des pastilles de LSD. Et tout le monde ne supporte pas le LSD, ça monte au cerveau et c'est assez compliqué. Donc les gars, je pense à un grand baraquet, il a fallu que je le retienne en pleine nuit, hein, parce qu'il allait se balancer par la fenêtre. C'était compliqué, puis après il passait sous le lit, il faisait le militaire, da, 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 da. Allez Bernard, fais le mort, pas envie de faire le mort, il est 2h du matin, il n'arrivait pas à dormir, et puis cette même nuit, il faisait le foin, lui, le bazar, mais d'autres aussi, et il y en a un qui a pris peur, il a été aux toilettes, et finalement dans les toilettes, il s'est taillé les veines, voilà, 19 ans, à coup d'épaule, hein, parce que j'avais rien sous la main, il a fallu que je défonce la porte, que je prenne le gars, que je lui fasse un garrot, que j'appelle le médecin qui est venu faire des points de suture, enfin bon, c'était grave. D'ailleurs, pour parler de ce jeune, cette maison, ce centre a fermé à un moment donné, parce que nous n'avions pas assez de finances, et ce jeune était désorienté, on va dire ça comme ça, et s'est immolé par le feu, en pleine place publique. Bon, voilà, ce sont des personnes telles que celle-ci, avec qui j'étais. Bon, c'était pas simple. D'ailleurs, là aussi, hein, j'ai rencontré un gars et je faisais avec lui, on récupérait des cartons qu'on mettait en ballot, mais pour ça il fallait faire fonctionner une presse avec une manivelle, vous savez, comme dans le tournesol, là, dans Tintin, il y a les deux tournesols qui... Ben, c'était un peu ça, avec un rail de chemin de fer. En tout cas, c'était très physique. Et ce gars-là avait été... Il avait été pris en stop parce qu'il fuyait un peu le centre, parce qu'il en avait ras-le-bol. Et puis, il avait été pris en stop par un gars qui l'a emmené dans une soirée où il y avait de l'occultisme qui s'est terminé en orgie sexuelle. Et là, il a été embauché comme tueur. Et il devait tuer quelqu'un. Et donc, le gars qui l'a embauché lui a donné un pistolet, les balles, etc. pour se faire. Mais le gars s'est dit, tiens, avant d'aller tuer la personne qui était désignée, je vais aller tuer le pasteur. Et donc, c'est moi qui l'ai accueilli, le pasteur n'étant pas là. Et waouh, il était possédé. Il me regardait, il était plus grand, enfin, c'est pas compliqué d'être plus grand que moi parce que je suis pas très petit, mais lui, il était grand, il était baraqué, en forme de V, vous savez, comme dans les dessins, là, et puis, il s'approchait de moi et ses yeux, j'avais l'impression que ça allait sortir de l'orbite comme dans certains dessins animés. Pouf, vous avez les yeux qui sortent là tout d'un coup, mais lui, alors il avait les yeux presque hors de ses orbites, et puis ses mains autour de mon cou pour me dire, et il me disait, toi Bernard, je me sens une telle puissance, une telle force que je pourrais prendre ta tête et la prendre et l'enlever comme on enlève un bouchon de bouteille. En tout cas, il avait ses mains autour de mon cou et j'en menais pas large, et intérieurement je priais en langue en demandant au Seigneur son secours. Ça s'est terminé parce que à un moment donné dans la discussion, je lui ai demandé de me donner les balles. Après, le pistolet, 100 balles, c'était pas très efficace, quoi. Mais il est rentré dans la chapelle, il a viré toutes les chaises. Enfin bon, ça, voilà, c'était c'était quelque chose, quoi. C'est dans ce même lieu que on avait des animaux. Les cochons étaient nourris aux bananes et aux yaourts parce que on avait un contrat avec un supermarché. On leur enlevait toutes les poubelles et ils nous donnaient tous les invendus. Mais j'ai vécu des trucs un peu fous, quoi. Ils ont voulu tuer un cochon, ils l'ont pendu par les pattes de derrière, ils ont fait un trou pour que le sang en coule, et puis moi je devais tenir le cochon. Ils ont ouvert le cochon à la tête là, et le sang coulait un peu partout, et puis finalement le cochon bougeait tellement que un de mes pieds est parti dans le trou, mon pied dans le trou, presque jusqu'au genou, dans le sang. Ils ont voulu, c'est pareil, on avait une vache, elle nous donnait du lait, mais elle avait eu un veau, et le veau n'était pas castré. À l'âge de 10 mois, le veau devenait cinglé, donc ils ont dit, allez, on va le tuer. Et le pasteur, ils étaient deux. 7 coups de masse pour le tuer, ce pauvre veau. C'est des expériences un peu surréalistes du vécu là dans ce lieu. C'est aussi là que dans cette structure que j'ai eu mes 20 ans. C'est mémorable. Vous savez, j'ai mon anniversaire en plein été, et là, ça faisait des semaines qui faisaient une chaleur épouvantable. Et donc, je vous disais qu'on avait un contrat avec un supermarché, donc on avait une grande remorque. Les gens mettaient dans la remorque n'importe comment, et puis il y en avait tout autour, et quand on arrivait, il fallait rentrer dans la remorque, ranger déjà ce qu'il y avait comme poubelle dans la remorque pour pouvoir mettre ce qu'il y avait à l'extérieur. Et là, j'ai dit à personne que j'avais mon anniversaire ce jour-là, parce que je voulais pas de favoritisme. Et donc, c'était à moi de rentrer dans la remorque pour ranger. Donc, je rentre dans la remorque et... je saute dedans parce que c'était une grande remorque avec des grandes ridelles. Je saute et puis tout d'un coup je me dis, mince, j'ai mon pied qui reste coincé. Je me dis, mince, bref, j'arrive enfin à me décoincer, et en même temps je réalise que j'étais tombé dans un carton de viande avariée avec des os, et c'est ça, mon pied était pris avec était coincé par des os, mais il y avait aussi de la viande avariée, et lorsque j'ai tiré mon pied, Je veux pas exagérer, mais il y avait des asticots partout, quoi. C'était blanc d'asticots qui grouillaient. Alors, je me suis mis assis sur la ridelle, pouvoir sauter de l'autre côté, et j'avais des chaussures assez évasées, et puis le temps que je m'asseye sur la ridelle, que je tombe de l'autre côté, ben, ça, en tombant de l'autre côté, ça a fait... Vous savez, c'est un peu comme... comment dire, quand vous marchez pieds nus dans la boue, vous avez la boue qui vient dans les doigts de pied, entre les doigts de pied, là ça fait une drôle de sensation, ben là c'était la même chose, mais c'était des asticots écrasés, et alors à une telle puanteur, mais ça sentait mauvais. Et donc là, à côté de la remorque, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit, mais Seigneur, c'est le jour de mes 20 ans. Tu exagères, là. Tu exagères. Le jour de mes 20 ans, me faire ça. Et là, il y a une petite voix qui me dit, en tout cas, c'est celle du Seigneur qui me dit, mais Bernard, si tu n'es pas prêt à accepter cela pour les plus petits, alors tu n'es pas digne d'être appelé à mon service. Vous savez, j'ai jamais oublié. Lorsque on a accueilli avec Daniel, je pense particulièrement à un homme qui avait des problèmes d'alcoolisme. Il est resté 13 mois chez nous à la maison. Il revenait des fois, il était complètement ivre. Il vomissait sur notre beau plat parquet. J'allais pas demander à Daniel de ramasser, il y avait pas de raison, quoi. Hein. Donc je ramassais son vomi, mais avec des haut-le-cœurs. C'était puant et difficile. Mais à chaque fois, la petite voix, Bernard, si tu n'es pas capable de faire cela pour les plus petits, alors tu n'es pas capable de me servir. Et vous savez, lorsque il m'est arrivé ici hein, de déboucher les toilettes. Bernard, si tu n'es pas capable de déboucher les toilettes de l'église pour pouvoir accueillir les gens qui viennent, alors tu ne peux pas être à mon service si tu n'es pas capable d'accepter. Jamais, jamais je n'ai oublié. Et je pense que je n'oublierai jamais. Bernard, si tu n'es pas prêt à accepter cela, pour moi, pour les petits, pour ceux qui viennent, pour que mon œuvre se fasse dans la vie des autres, alors tu ne peux pas être capable de me servir. Bref, ce lieu a fermé, je suis parti de là pour une autre école biblique. J'avais les cours le matin et je travaillais l'après-midi comme pâtissier. Durant ce temps d'études, nous sommes allés en Suisse pour annoncer l'évangile. Nous étions un groupe, il y avait un couple, un guitariste, chanteur-guitariste, et le pasteur et puis moi-même. Et voilà, on était là et finalement, c'était extraordinaire ce qu'on a vécu comme évangélisation. On n'avait rien à faire. Il y avait des guérisons ici, des délivrances démoniaques là. Enfin bon, on a vécu des temps assez forts sur le plan spirituel. Et le dimanche, on était invité dans une famille. Mais alors, j'avais jamais vu ça, quoi. Il y avait trois assiettes, il y avait des couverts, ça n'en finissait plus. Et on était obligé d'attendre que les autres mangent pour savoir quel couvert il fallait prendre et comment il fallait manger, parce que c'était pas du tout mon milieu, hein. Je viens pas de là, moi. C'était un peu compliqué. Et pendant le temps de repas, de dessert, je me souviens encore, hein, c'était de la glace et il y avait des bombes de crème chantilly. Et donc le pasteur, qui était mon directeur d'école biblique, il a pris la bombe de crème chantilly, il en a mis partout sur la barbe de notre chanteur guitariste. Bon, voilà, donc tout le monde a rigolé. Moi, 2-3 jours après, j'étais seul dans la voiture avec mon directeur, et puis je lui dis, tu sais, moi je suis quelqu'un qui aime bien rire, hein, j'aime bien les blagues, etc. Mais toi, quand on est invité chez des gens comme ça, où il y a effectivement 3 assiettes, des couverts, enfin le standing, ça, comme blague, tu peux faire chez toi à la maison, mais pas quand on est invité chez des gens comme ça, quoi. Eh ben, je me suis fait virer. Il m'a viré. Il n'a pas accepté ce que je lui disais. J'avais d'ailleurs eu déjà quelques problèmes avec lui. Je me souviens que on faisait des conventions à l'époque, c'était des rassemblements, des séminaires, si vous voulez. Alors que en temps normal, on se tutoyait. Lorsque il y avait des gens comme ça de l'extérieur, il exigeait que je le vouvoie. Et moi, je lui disais, ah non. Je te tutoie dans la vie de tous les jours, c'est pas parce qu'il y a des personnes qui viennent de l'extérieur que je vais commencer à te vouvoyer. Donc, bon, voilà, c'était pas simple. Je rentrais pas dans le moule, en tout cas, je rentrais pas dans ce que lui voulait, et donc il m'a viré parce que je lui avais dit que mettre de la crème chantilly dans la barbe du chanteur, ça se faisait chez lui à la maison, mais pas quand on est invité. Chez des gens. Donc, je vous dis ça parce que quand je dis que je me suis fait virer de 2 écoles bibliques, les gens pensent tout de suite que bah ouais, c'est normal, hein, c'est Bernard, il est mal éduqué, etc. Mais là, les 2 fois, quand je me suis fait virer des écoles bibliques, ben, une fois, c'est parce que j'étais amoureux, et d'ailleurs, la fille m'a, au bout de 3 semaines, elle m'a laissé, hein, parce que quand j'étais chez les toxicos, là, non seulement je devais aider les toxicos et les marginaux qui étaient là, mais moi, j'étais en rupture sentimentale, et j'ai vécu, à peu près 9 mois de déception sentimentale. Ça a été vraiment compliqué et difficile. Mais bon, tout ça pour vous dire que, non, c'était pas simple. Et comme il m'a viré ce pasteur, directeur d'école biblique, eh ben je me suis retrouvé à Lille. C'est comme ça que j'ai rencontré Daniel. Et là encore, j'ai failli me faire virer parce que le pasteur qui était là ne voulait pas que des fiancés soient sous le même toit. Oui, mais qu'est-ce que vont dire les gens? Ils vont dire que vous êtes dans la vie communautaire, vous allez coucher ensemble, enfin bref, mais voilà, ils voulaient me virer. Alors, ben non, ras-le-bol, quoi. Bon. C'est là où je pense j'ai voulu lui mettre un coup de poing dans la figure. Et je le supportais de moins en moins, ce pasteur, jusqu'à ce que l'Esprit Saint est venu me dire, Bernard, tu as un problème d'insoumission, il faut que tu le règles. Alors j'avais envie de dire au Seigneur, mais attends, tu rigoles, t'as vu comment il est pénible, mais j'avais compris, je disais pas ça parce que j'avais compris que c'était pas lui qui était en cause, c'était moi. J'avais un problème d'insoumission, même si lui était pénible, mais moi j'avais, en tout cas le Saint-Esprit me disait, tu as un problème. Bernard, il faut que tu le règles. Et non seulement il m'a dit, tu as un problème, mais il m'a dit, Bernard, tu as un problème d'insoumission, si tu n'arrives pas à régler ce problème-là, tu ne sera jamais apte à mon service. Et je trouve, Seigneur, là, c'est petit, quoi. Hein, tu sais par quel bout me prendre, parce que tu sais que je veux te servir. Et je prenais ça presque comme du chantage, quoi. Hein, tu peux pas me servir si tu règles pas ton problème. Ah, Seigneur, ouais, c'est un peu petit, mais en même temps, c'était vrai, quoi. Hein, en même temps, c'était vrai. Donc, ok. À partir de là, je demandais à des pasteurs qui venaient, des invités qui venaient dans notre communauté, là. Je leur demandais un entretien, je demandais à ce qu'on puisse prier. Et bon, ils priaient, mais au bout de quelques mois, il n'y avait rien s'est passé. Donc, j'ai décidé de partir. de Lille jusqu'en Bretagne pour avoir un temps de prière, de jeûne. Et puis, je suis resté là effectivement dans 4-5 jours. Et puis avant de partir, le pasteur, qui était aussi directeur d'une école biblique dans ce même centre, me dit « Mais tiens, tu es venu, tu repars, on sait rien de toi, on sait pas pourquoi tu es là, etc. » Donc il a voulu qu'on puisse avoir un entretien, et alors on a eu un entretien. Je lui ai dit « Mais voilà, j'ai un problème d'insoumission et je sais pas comment m'en dépatouiller. Et le Seigneur me dit que si j'arrive pas à le régler, je ne peux pas être apte à le servir. » Donc lui, il a cherché à savoir quels étaient les défauts du pasteur, etc. Et moi, je lui disais non, il s'agit pas de ses défauts, sa manière d'être, etc. Il s'agit de moi. Donc il a prié pour moi, je suis parti, je suis rentré à Lille, et puis arrivé à Lille, le pasteur me dit bah, « Tiens, t'es parti pendant plusieurs jours, il faudrait qu'on se voit, donc on s'est vu avec Daniel. » Et puis finalement, la première chose qu'il me dit, tu sais le pasteur que tu viens de voir là il m'a donné un coup de fil pendant que tu étais en route et il m'a dit fais attention, Bernard est dangereux, il faut que tu faut le mettre dehors, vire-le. Ah, je dis non, c'est pas possible quoi, c'est un coup de poignard dans le dos, d'autant plus que j'étais pas là à critiquer. Enfin bon, c'est quand même dingue quoi. Et donc là pour moi c'était un peu trop quoi. Hein. Donc je lui ai dit écoute. Ok, mais là c'est trop. Donc je lui ai expliqué que j'avais rien dit sur lui, que le problème venait de moi. Et donc j'ai dit maintenant je rentre dans les rangs, je veux plus servir, ras-le-bol quoi. C'est trop. Et il a eu une parole de sagesse et il m'a dit mais Bernard si tu t'en vas, si tu arrêtes de servir. Les jeunes qui se convertissent au café-bar vont te demander pourquoi, et si tu leur dis, ça va être une pierre d'achoppement, et ils vont quitter peut-être la foi même, ou le Seigneur, continue. Et donc, je crois qu'il a eu une parole de sagesse, là, parce que... ok Seigneur, pour les jeunes qui se tournent vers toi au café-bar dont nous étions responsables avec Daniel, je disais tout à l'heure, je continue et sans rien faire voir à personne, mais j'ai été blessé, tellement blessé que ça m'a duré, je ne me rappelle plus, mais 7, 8, 9 mois. Ou blessé par cette trahison de ce pasteur, j'ai dit, Seigneur, non seulement je te demande de guérir de cette trahison, mais je te demande aussi de me guérir de ce problème. Ce qui fait que, au bout, de plusieurs mois, un matin, après la prière, c'était parti, c'était réglé. Donc mon problème d'insoumission était réglé. Donc je suis allé voir le pasteur en lui disant écoute, voilà comment que ça va se passer. Le Seigneur a réglé mon problème d'insoumission. Donc voilà comment on va faire. À chaque fois que tu me demanderas quelque chose et que je pense que c'est pas juste, je te dirai ok, moi je pense que c'est pas juste que tu me demandes. Mais je vais le faire, mais c'est toi qui vas en avoir la responsabilité devant Dieu. Et donc tu vas prendre la décision, enfin toi-même, devant le Seigneur, et c'est toi qui seras responsable. Par contre, tant que je serai là, dans cette communauté de vie, ton projet de faire signer les gens pour qu'ils restent à vie dans cette communauté, comme ça se passe dans... certains autres milieux religieux pour des moines, des religieuses, etc. Pourquoi pas, mais moi, tant que je suis là, ça, tu n'arriveras pas à faire. Et c'est ce qui s'est passé. Ça. il a fait signer les gens après, comme quoi les gens devaient s'engager à vie dans cette vie communautaire et comme quoi ben, tout ce qui leur appartenait appartenait à la communauté, donc les héritages, etc. Enfin bref, il est devenu un gourou, on va dire ça comme ça. Mais tant que j'étais là, ça c'était pas possible et voilà, c'est comme ça que j'ai vécu ce problème d'insoumission où le Saint-Esprit m'a touché et a en même temps guéri la trahison de ce pasteur et en même temps a fait en sorte que je puisse avoir ce problème d'insoumission de régler, on va dire ça comme ça, quoi. Je profite juste de ça pour dire que, au passage, l'insoumission est un facteur de stérilité dans le service de Dieu. Satan a été insoumis. Comment voulez-vous vivre des délivrances démoniaques ou certaines guérisons en étant insoumis? Si vous êtes insoumis, ça ne veut pas dire qu'on devient une carpette et qu'on n'est plus soi-même, mais si on est insoumis, il n'y a pas la bénédiction du Seigneur, parce que dans le royaume des cieux, il y a la soumission les uns aux autres. D'ailleurs, la Bible nous dit que Jésus a été soumis jusqu'à aller à la mort de la croix. Et on voit que les anges de l'Éternel sont soumis les uns au Seigneur, etc. Donc, voilà. À Angers, nous avions accompagné un couple qui s'est tourné vers le Seigneur. Un couple, une famille, on va dire. Et puis, donc on les a formés, ils ont commencé, lui a commencé à prêcher, etc. Puis, au bout de 3 ans, il avait été dans un séminaire et il en est revenu où il voulait me virer. Je lui ai laissé la prédication et tout d'un coup, en guise de prédication, il était en train de me critiquer sans prononcer mon prénom. Et je me suis dit, oulala, et donc il a fallu que je cherche pendant les 10 minutes que ça a duré. Je me suis dit, mais ça va pas durer tout le temps, ça. Et bon, il a fallu que je cherche quelque chose à dire pour rebondir après. Mais voilà, il a voulu me virer, ils ont voulu me virer pour prendre notre place. Nous, on veut pas que notre communauté se détruise, donc on va vous laisser la place et puis on va implanter une église ailleurs. Sauf que le pasteur qui nous avait parlé d'Angers nous a dit, ben non, c'est vous qui avez été appelé ici à Angers, donc le Seigneur veut que vous y restiez. Alors voilà, on y est resté. Et puis en 2013, c'est un jeune que nous avions aussi accompagné dans la conversion, dans ses études pastorales. Et bon, voilà, lors d'un conseil administratif, il avait été convié pour parce qu'il devait prendre, enfin, il devait partager en tout cas une décision qu'une association lui demandait de prendre, donc il devait dire au conseil, mais voilà, la décision que j'ai prise. Et puis finalement, au lieu de dire ça, au lieu de dire que ce qu'il avait à dire, pendant pratiquement 3/4 d'heure, 1 heure, il a déclaré plusieurs fois au conseil, mais Bernard est une boule de pu. Virez Bernard et vous verrez que l'église du Colombier s'en portera mieux. Le problème, c'est lui. Bernard est une boule de pu. C'est très violent. C'est très, très violent. J'en ai souffert en silence pendant des mois. même devant Daniel et les enfants, je ne laissais pas paraître cette souffrance. Je me disais à quoi bon partager. Bon, bref. Mais voilà, je me souviens, je me vois encore dans certains endroits prier pratiquement chaque jour en disant « Seigneur, je vais pas aller lui casser la figure. Viens me guérir de cela. Viens me guérir de la souffrance qu'a occasionné cette parole. Ouais. En fait, depuis longtemps, ma devise est celle-ci. Seigneur, si quelqu'un me critique, montre-moi si celle-ci est justifiée. Dans ce cas-là, si la critique est justifiée, change-moi. Change ma manière d'être, de voir, de concevoir. Mais si c'est pas juste, alors je te demande de bénir la personne. Et donc, pour toutes ces personnes dont je vous parle, ça a toujours été un peu cela. Seigneur, si la critique est juste, si en tout cas elle est justifiée, viens me changer. Mais si elle n'est pas juste, bénis la personne. Ça n'occulte pas la souffrance personnelle, mais ça n'en rajoute pas une. Ça ne sert à rien d'avoir du grief et de l'amertume, parce que l'amertume, la rancœur, n'apporte pas la guérison. Et quand on est dans ces situations-là, nous avons besoin de guérir. Je vous ai parlé de souffrance, de difficulté. Vous savez, la souffrance, non, vous savez, la persévérance, nous en avons besoin que lorsque c'est difficile. Lorsqu'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas besoin de persévérance. Et lorsque le Seigneur nous dit de persévérer, c'est bien parce que il y a de la souffrance, de la difficulté, et que ce n'est pas tout simple. J'ai encore dans les oreilles la réflexion d'une personne qui m'est très proche, et qui me disait, mais pourquoi tu continues à fréquenter le Colombier après tout ce que tu subis? Fais comme nous, quitte. Tu seras tranquille, quoi. Mais ma réponse est simple. Malgré toutes les imperfections de cette communauté et des miennes, Jésus aime cette Église, comme il aimait cette Église de l'Apocalypse, qui n'était pas non plus au top. Donc moi, je prends le parti de vouloir aimer ce que le Seigneur aime, et il aime cette communauté, et il demandait, et il demande, à ce que je l'aime, même s'il y a des imperfections. Aujourd'hui, ce que nous vivons dans cette communauté me comble. Je le dis, hein, nous avons bien fait avec Daniel de rester dans cette communauté, malgré les complications, les difficultés, les souffrances occasionnées. Nous avons bien fait de rester parce que le Seigneur nous appelait à rester là, malgré tout. D'ailleurs, la semaine dernière, c'est un pasteur de la ville qui me disait « Tu as vu, Bernard? Le Seigneur t'a ramené pour être de nouveau le pasteur de cette communauté. Comme quoi, il voulait pas que tu partes. » En effet, c'est étonnant et je suis moi-même un peu surpris de la manière dont il nous a ramené là avec Daniel comme pour prendre la responsabilité pastorale après un temps de retraite, après que il y ait quelqu'un qui m'a succédé, etc. Et je m'attendais pas du tout aux circonstances qui ont été celles de notre communauté. Je m'attendais pas du tout à revenir comme pasteur, mais je suis content de l'être. Je suis épanoui dans ce que je fais et dans ce que le Seigneur me demande. Voilà, je suis heureux de partager le service avec des frères et sœurs qui sont vraiment chouettes. Et je dois dire qu'il y a très longtemps que je n'ai pas eu une aussi grande liberté pour vivre le ministère pastoral que j'ai actuellement. Voilà, ça fait du bien. Cela dit, et pour terminer sur ce chapitre peut-être, la souffrance la plus compliquée à vivre fut la perte de notre fille aînée, Rebecca. Alors que nous étions en train d'inaugurer la braderie de Lille, vous savez, c'est une grande braderie énorme. Et donc là, Daniel a commencé à avoir des contractions et j'ai dû prendre la voiture. Et c'était pas sécurisé comme c'est actuellement. Et j'ai mis Daniel dans la voiture. J'ai dû, avec des appels de phare, des klaxons, demander aux gens de pousser un peu leur stand pour pouvoir sortir. J'avais pas en présence d'esprit de demander à ce que les pompiers viennent, parce qu'on pensait pas du tout à la gravité, j'allais dire, de ce qu'on allait vivre. Donc j'ai emmené Daniel à la clinique. Elle a eu une perfusion finalement. Elle était en train d'avoir des contractions alors que elle était seulement à 5 mois et demi de grossesse. Et voilà, vers de 23h jusqu'à 17h, elle a eu ses perfusions. Et là, vers 17h, la sage-femme, les médecins sont venus me voir en me disant bah, « Écoutez, il faut qu'elle accouche parce que sinon c'est elle qui va mourir. » quoi. Alors, oh, c'était pas simple, j'étais pas très mûr non plus, j'avais 22 ans, c'est assez jeune pour ce type de... Mais enfin, là, il y avait pas tant de choses à discuter, ben ok, alors Daniel a accouché, j'ai assisté à l'accouchement, ils avaient mis un drap sur Daniel pour pas qu'elle voie le bébé, mais le bébé a crié en sortant, malgré que les poumons étaient pas tout à fait formés. Donc, moi, j'ai demandé à voir le bébé sous couveuse. Donc, j'ai vu que c'était une fille. Et là, devant la couveuse, encore, j'ai dû exiger, hein, puisque les médecins voulaient pas que je puisse la voir. Et là, ils me disaient, mais vous savez, elle est pas viable parce que les poumons sont pas complètement formés, donc voilà. Et donc, non seulement il me disait qu'elle était pas viable, mais il me disait, mais vous savez, on vous conseille de ne pas la déclarer, parce que si vous déclarez votre enfant, vous allez être obligé d'avoir des obsèques, faire un enterrement. Donc, voilà, je sais pas quelle est votre situation, mais alors, oh là, ça avait déjà été tellement compliqué de pouvoir se marier dans cette structure communautaire. Les finances qu'on avait eues de la part des gens qui disaient « Mais qu'est-ce que t'as besoin ?» Ben, on est dans une vie communautaire, alors on a besoin pas de grand-chose, j'allais dire, mais si vous avez les finances, et là, dans cette vie communautaire, c'était notre mariage ayant lieu au mois de mars, au mois de février, il n'y avait plus de mazout, et les gens de la communauté voulaient qu'on donne notre argent qui devait servir à notre mariage pour remplir la cuve de fuel, et comme on disait non parce que c'était pour notre mariage, on nous disait ah oui, mais vous savez, si nos enfants sont malades, ça va être de votre faute parce que vous avez de l'argent, vous voulez pas le donner. Enfin bon, voilà, c'était un peu compliqué. Et donc je m'étais dit ouf, faire supporter un enterrement à cette communauté, ça va pas le faire. Donc j'ai accepté. Daniel a dit mais prends la décision, je suis trop épuisé pour dire. Donc j'ai pris la décision d'écouter leurs conseils. Nous n'avons pas déclaré cet enfant en mairie, mais ouf, ça a été difficile pendant des années et des années, parce que on se disait mais qu'est-ce qu'ils ont fait de notre enfant? Est-ce qu'ils l'ont mis dans une poubelle? Comment est-ce qu'elle est décédée? Enfin, il y a plein de questions comme ça, et il y avait aucun lieu pour se recueillir, pour faire notre deuil. Oui, non, ça a été très compliqué. Daniel me disait, bah, tu vois, moi je sors sans le bébé, regarde, ils sortent avec un couffin. Bon, même à la clinique, il a fallu que j'aille réclamer qu'on enlève le berceau qui était dans la salle. Enfin, ça a été douloureux. Et au bout d'une vingtaine d'années, on disait souvent à nos enfants, ouais, mais à Étienne, tu n'es pas l'aîné parce que il y a eu une petite fille, et on l'appelait toujours petite fille. Il y a eu une fille avant toi, il y a eu une fille avant vous, il y a la fille aînée, et on lui avait pas donné de prénom, et voilà que 20 ans après, Daniel réunit toute la famille, jour pour jour, c'était les 20 ans, un dimanche. Et après le repas, elle a dit, ben voilà, on a décidé que celle qu'on appelle notre petite fille ou la première fille, ben on a décidé de l'appeler Rebecca. Et donc, voilà, aujourd'hui, lorsque je vais donner des enseignements ici ou là et qu'on me demande combien j'ai d'enfants, je réponds, j'ai 5 enfants, mais j'en ai élevé 4. Voilà, c'est pas toujours simple, c'est douloureux. Donc je veux pas conclure ce chapitre sur qui paraît lourd, hein, difficile à porter. Enfin c'est lourd, mais je veux dire avec le prophète Samuel, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Il nous a toujours secourus. Il m'a toujours accompagné et il m'a toujours secouru. Ça a été compliqué, difficile, douloureux parfois, mais il est toujours venu à mon secours. Mon secours à moi, mais le secours de notre famille. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Je voudrais aussi ne pas oublier que si c'est effectivement compliqué et difficile, le Seigneur a aussi de la délicatesse. Et là, je pense à une pastorale nationale dont je vous parlais tout à l'heure. Pastorale nationale où j'élevais ma voix vers le Seigneur en lui disant que j'étais frustré, que j'étais pas d'accord, enfin bon, mon mécontentement. Et puis tout d'un coup, j'ai senti que une personne derrière moi mettait ses mains sur mes épaules et puis a commencé à pleurer, mais à pleurer, à sangloter, au point que je commençais à sentir les gouttes de ses pleurs, ses larmes, et j'étais gêné. Je pensais pas que ma prière de frustration vers Dieu donne une réaction comme ça. Enfin bon, j'étais très gêné. Et puis à la fin, je me lève, je le regarde, et puis ce pasteur me dit, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai été pris, saisi par le Saint-Esprit, j'ai pleuré, mais sache que c'est le Seigneur qui dit, je pleure avec toi. J'ai compassion, je comprends ce que tu vis, et je pleure avec toi. J'appelle ça la délicatesse de Dieu. Le Seigneur est délicat. Il est délicat avec toi, il est délicat avec moi. Il faut garder précieusement ces temps de délicatesse de Dieu. Et puis, je voudrais aussi attester que le Seigneur a toujours été avec nous pour ce qui concerne les finances. Il a toujours pourvu aux besoins financiers. Pourtant, je travaillais ici à Angers, je travaillais à mi-temps, et sur ce mi-temps, nous nourrissions pas seulement notre famille, il y avait 3 enfants, Daniel, moi, mais on accueillait aussi les gens, et il est arrivé, par exemple, que sur ce mi-temps, on a accueilli 3 personnes en même temps. Ils logeaient dans des lits superposés, etc., mais c'est sur le mi-temps qu'on vivait. Le Seigneur a toujours pourvu à tous nos besoins, même si il fallait des fois attendre 3 mois avant de pouvoir acheter un jean, le Seigneur a pourvu. Nous n'avons manqué de rien, nous n'avons pas été riches, nous avons eu quelques soucis pour avoir l'obtention d'un emprunt pour acheter une voiture, une maison, n'en parlons pas, hein, ça n'a pas été possible. Parce qu'on avait fait le choix en couple que Daniel allait rester à la maison, non seulement pour élever nos enfants, mais aussi pour accueillir les personnes en difficulté. Donc c'est un vrai apostolat de couple, de famille. Mais bon, voilà, même si on n'a pas de maison à nous et qu'on est en location HLM, le Seigneur a toujours pourvu à tous nos besoins. La vie chrétienne, c'est pas toujours facile, mais je persévère, car l'amour du Christ est tellement plus fort, et ma passion pour Jésus-Christ est plus forte que les souffrances endurées. Je vous redis ça parce que je l'ai mis par écrit. La vie chrétienne n'est pas toujours facile, mais je persévère, car l'amour du Christ est tellement plus fort et ma passion pour Jésus est tellement plus forte que les souffrances endurées. Ouais, je veux dire ça comme un espèce de testament, quoi. Alors avant de passer à des choses plus légères, je dirais quand même encore un mot sur les échecs et les frustrations, parce que là aussi... C'est tout un chapitre que l'on occulte parfois dans la vie chrétienne. On préfère parler de choses qui sont positives, mais je trouve qu'il faut aussi parler de choses qui le sont moins. Dans la rubrique échec, je me considère être en échec à chaque fois que quelqu'un part fâché de cette communauté du Colombier, sans qu'on ait pu vivre la réconciliation. Il y a un autre échec pour moi, c'est d'avoir tellement souhaité avoir une école de pionniers, de personnes qui vont implanter des églises, mais bon, ça n'a pas vu le jour. L'échec, c'est lorsque... Le Seigneur m'a dit, Bernard, tu fais des choses auxquelles je ne t'ai pas appelé et d'autres que j'attends de toi, mais que tu ne fais pas. Autrement dit, il y a des choses auxquelles je t'ai appelé, tu ne les fais pas, il y a des choses où tu n'es pas appelé et tu fais. Pour moi, c'est un échec. C'est le jour... Un autre échec, c'est le jour où le Seigneur est venu me visiter en 2010, me semble-t-il. Il m'a complimenté. Ah Bernard, vraiment, tu es un bon leader, tu manages bien. Voilà, l'église est chouette, il y a beaucoup de jeunes, il y a une excellente louange. Il y a de la vie, l'église est connue dans la ville avec les actions de la fraternité, les actions sociales, etc. Enfin bref, vous êtes bien vu dans la ville. Et bon, j'attendais un peu la chute et je disais mais Seigneur, si tu me dis tout ça, c'est peut-être qu'il y a un mais. Et effectivement, le mais c'était. Mais Bernard, je frappe à la porte du Colombier, je voudrais rentrer. Parce que vous êtes tellement bien organisé que vous n'avez plus eu besoin de moi et que vous ne demandez pas non plus mon avis sur vos actions, sur la vie du culte, sur la vie communautaire. Vous voulez faire de moi juste un bon à vouloir pour être rassuré de ma bénédiction, mais je marche pas. Si tu me dis Seigneur, je fonce, j'y vais, je fais des choses, viens, accompagne-moi, suis-moi. Je dis non, donc je suis à la porte, je frappe en disant, Église du Colombier, si tu veux bien, je voudrais bien rentrer dans l'église et avoir une place pour pouvoir la conduire et la diriger. Ça a été un échec profond, vécu douloureusement, mais une bonne leçon, puisque je m'en rappelle. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Il faut que j'avance un peu, hein. J'ai appris que ni moi, ni mes conceptions ne sont la norme. Jésus est celui, est le Jésus de la diversité. Il n'y a pas de pensée unique. Une de mes plus grandes difficultés dans le domaine pastoral est celui d'aligner mes pensées sur les pensées du Seigneur, justement, puisque j'en parlais tout à l'heure. Je suis parfois, de manière inconsciente, pollué par les conceptions que j'ai apprises. J'ai appris que c'était comme ça que devait être conduit, diriger une église, et donc sans forcément y réfléchir, ben je fais comme j'ai appris, comme j'ai entendu dire. Et là, souvent le Seigneur, enfin souvent, il arrive en tout cas que le Seigneur vienne et dise « mais c'est peut-être pas tout à fait comme ça que je veux faire les choses ». Je pense à un exemple précis, c'est quand une religieuse catholique qui fréquentait notre église m'a dit « mais Bernard, je voudrais me faire baptiser ». « Ah, qu'est-ce que tu me racontes? T'es catho, quoi ?» Oui, oui, je veux me faire baptiser, mais je veux pas être membre de l'église baptiste. Ah, mais ça rentrait pas du tout dans le cadre de notre fédération, de notre église. Voilà, jusqu'à ce que le Seigneur me dise, mais Bernard, qui es-tu, toi, pour ne pas vouloir faire ce que moi je lui demande de faire? Si c'est moi qui lui dis, fais-toi baptiser, qui es-tu pour t'opposer? Ah ouais, Seigneur, mais enfin, c'est pas tout à fait, c'est pas logique, quoi. Laisse-moi faire. Alors, allez, pour être franc, j'ai dit à cette religieuse, écoute, ok, si tu arrives à trouver un prêtre qui te donne l'autorisation d'être baptisé chez nous. À vrai dire, je me disais, mais jamais elle va trouver un prêtre qui va lui dire, ok, va te faire baptiser chez les baptistes. Mais si, et si, il y a un prêtre, Pierre, je m'en souviens encore, qui lui a dit, mais si c'est le Saint-Esprit qui te demande d'être baptisé, alors fais-toi baptiser, je suis d'accord. Donc, écoutez, on l'a baptisé, mais ça a été aussi l'ouverture pour accompagner dans cet acte d'obéissance du baptême des dizaines de catholiques qui voulaient être baptisés ou confirmés dans leur baptême, selon le terme des uns et des autres, dans cet acte d'obéissance. Et puis, mon père, je vous l'ai dit en préambule, a été infect avec tout le monde. Il a été compliqué et il m'avait dit qu'il voulait pas de Dieu. Je lui avais dit, hein. Je lui ai dit, mais papa, t'as été témoin de Jéhovah, pourquoi tu veux pas du Seigneur? Et il m'avait répondu, mais parce que ta mère s'est convertie avant moi et j'ai pas envie de devoir dire, c'est grâce à ma femme que j'ai rencontré Jésus. Donc, l'orgueil, quoi, c'est démentiel, c'est fou. Mais bon. Donc, je suis allé voir mon père, alors que j'étais à Montpellier chez Étienne. Il habite Avignon, donc je suis allé voir mon père. Et puis, il était très mal en point, 93 ans, hein, mal en point. Et, bon, mais impossible de discuter avec lui. Alors, je retourne, je prends les enfants d'Étienne, on est à Angers, et là, j'ai une de mes sœurs qui vient en visite, et on reçoit un coup de fil de l'autre de mes sœurs qui lui dit, les médecins ont dit que papa n'allait pas passer la nuit, ou en tout cas, s'il passe la nuit, c'est une question de jour, mais pas longtemps. Bon, ok. Et le lendemain, j'étais en train de prier, et le Seigneur m'interpelle et il me dit, est-ce que tu te rends compte que tu pries jamais pour ton père, c'est toujours Daniel qui prie. Je dis, ben oui, Seigneur, ouais, t'as raison. Et quand elle prie, tu dis jamais Amen. Ah oui, ouais, mais tant que tu le dis, oui. Bernard, tu lui en veux encore? Ah non, Seigneur, tu sais bien que je lui ai pardonné il y a longtemps, quoi. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, tout d'un coup, il me dit, mais est-ce que tu as pensé à moi, Bernard? Pensé à toi, Seigneur, mais qu'est-ce que tu viens faire là, quoi? Penser à quoi? Et puis le Seigneur me dit, mais si je veux que ton père soit sauvé, alors, je dis, ah, mon père? Non, mais Seigneur, tu n'y penses pas, quoi. Tu veux que mon père vive avec toi l'éternité? Mais tu sais comment il a été? Il a été pénible durant toute sa vie avec tout le monde, et toi, tu le veux avec toi dans l'éternité? Mais n'y pense même pas. Bernard, est-ce que tu as pensé à moi? Et si moi, j'ai envie qu'il vive l'éternité avec moi? Oh, ben, Seigneur, c'est franchement, j'y ai pas pensé, mais c'est même pas dans ma logique, quoi. Et ok, Seigneur, si tu veux, mon père est en train de mourir, là. Si tu veux qu'il soit sauvé, eh ben, tu le gardes en vie. Moi, je suis à Angers, je redescends pas à Montpellier et donc à Avignon avant 5-6 semaines. Donc, si jamais tu veux qu'il soit sauvé, tu le gardes en vie. Et puis, finalement, c'est ce que le Seigneur a fait. Je suis allé ramener les enfants chez Étienne, je suis allé voir mon père. Après le repas, mon père était de toute façon alité, je vais le voir et puis je lui dis, alors papa, t'as failli mourir, t'as failli voir mon patron, c'est difficile, hein, oui, c'est difficile, oui. Écoute, papa, je suis venu pour prier pour toi. Et là, il me répond, ça n'en vaut pas la peine. Alors, je me disais, ah, purée, encore, ça n'en vaut pas la peine. Autrement dit, non, je veux pas, je refuse, enfin bon. Et puis là, tout d'un coup, le Saint-Esprit m'interpelle et puis il me dit, mais Bernard, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Ce qu'il veut dire, c'est, je n'en vaut pas la peine. Ouf. Et donc, je lui ai dit, mais papa, je sais que tu n'en vaut pas la peine. T'as été infect toute ta vie, avec maman, avec nous, avec tes collègues de travail, avec les voisins, etc. Mais je sais bien que tu n'en vaux pas la peine, mais le Seigneur veut quand même te sauver. Il veut quand même pardonner tes péchés, etc. Donc je commence à parler, et puis Daniel vient, elle avait pris sa guitare, et ma belle-mère vient aussi, enfin la femme de mon père, et bon, on commence à chanter quelques chants, enfin Daniel surtout, et puis finalement, il acceptait mieux les choses venant de la part de Daniel que de moi, donc voilà, c'est pas un problème, mais Daniel l'a amené au pardon, l'a amené à ce qu'il accepte le pardon de Jésus-Christ, etc., et je le vois encore en pleurs, oui, je veux, j'accepte, je demande le pardon, enfin bon, j'accepte que Jésus vienne me pardonner, etc. Et on prie après pour lui, et il est tout d'un coup dans une paix assez profonde, et puis on le quitte, voilà, et quelques jours après, il décède. Bernard, as-tu pensé à moi? Est-ce que je vous dis ça parce que il y a des moments où on fait les choses mais sans vraiment penser Ou demander à ce que, Seigneur, qu'est-ce que t'en penses, quoi. On fait comme nous, on pense. On fait selon notre conception. Est-ce que tu as pensé à moi? De la même manière, le Seigneur a prophétisé sur cette communauté du Colombier. Elle était comme un vase. Et on a eu cette parole prophétique d'une personne de l'Afrique du Sud. Je vais prendre la communauté qui est comme de l'argile. Je vais prendre le pot, je vais remettre le pot en motte et je vais refaire une nouvelle forme. Je vais lui donner une nouvelle forme qui me fait plus plaisir, qui m'est plus agréable. C'est un texte tiré du livre de Jérémie. Va voir le potier et Jérémie va voir le potier et c'est l'image qu'il en a et c'est l'image que nous avons reçue ici dans cette communauté. Voilà, je ne sais pas encore quelle forme le Seigneur veut pour ce prochain vase, pour cette communauté, mais nous lui demandons qu'il nous aide, qu'il change nos conceptions, nos mentalités. Nous voulons être souples entre ses mains pour qu'il fasse ce qu'il veut au travers de notre communauté. L'essentiel, c'est ça, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu veux faire de nous ? Qu'est-ce que tu veux faire au travers de nous ? Nous voulons être malléables entre tes mains. » Je suis convaincu que Jésus aime notre ville d'Angers et qu'il regarde cette ville non seulement assemblée par assemblée, église par église, mais que du haut du ciel, il voit l'église d'Angers dans sa globalité. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire ? Toi, au travers de cette église universelle d'Angers, qu'est-ce que tu veux faire ? Au travers d'elle. Et donc de changer ma mentalité, ma conception pour que ce soit pas juste moi qui suis pasteur d'une église, d'une assemblée, mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses devoir vivre dans cette ville, pour cette ville, dans sa globalité? C'est un peu ce que nous avons vécu ce matin dans une autre église où on a eu un temps de prière ou d'enseignement justement pour parler de ces choses-là. Comment, Seigneur, tu vois les choses? Je voudrais aussi vous parler des paroles prophétiques. Parce que je viens de vous en parler là pour la manière dont le Seigneur veut remodeler, refaire la forme de cette communauté. Il a fallu attendre des années, hein, puisque nous avons eu cette parole prophétique, si mes souvenirs sont bons, en 2002, et c'est seulement en 2011 que les choses se sont mises en place pour que les difficultés, la remise en motte, on va dire, et heureusement que le Seigneur avait dit, mais vous affolez pas, c'est pas que vous avez fait bien ou mal les choses, c'est simplement que moi je veux refaire autrement les choses, donc commencez pas à vous culpabiliser pour savoir qu'est-ce que vous avez bien fait ou mal fait, etc. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je vais remodeler, mais entre la parole prophétique en 2002 et le commencement de la réalisation de cette remise en motte en 2011, et ça a duré 5 ans, ouais, c'est un peu long, quoi. Mais les paroles prophétiques, lorsque Dieu les dit, elles sont justes, elles sont vraies et elles se réalisent. Et pour ma part, alors que j'étais dans l'eau du baptême, puisque c'est le jubilé de baptême, hein, lorsque j'étais dans l'eau du baptême, le pasteur a eu une parole prophétique. Mon fils, disait-il de la part de Dieu, mon fils, je t'ai appelé aujourd'hui afin de te prouver puissamment ma grâce et ma miséricorde dans ta vie future, dans cette vie que je t'ai donnée. Vous vous souvenez, il m'a donné parce que dans le ventre de ma mère, je devais être avorté en principe. Dans cette vie que je t'ai donnée et que je te donnerai encore, j'ai versé mon sang pour toi afin de te prouver ma grâce. Je t'aime tant, c'est pour ça que je t'ai appelé. Accepte cette grâce et sois toujours reconnaissant pour le salut que je t'ai donné. Car j'ai encore des grandes choses en vue dans ta vie. Je t'appelle aujourd'hui. Avance avec courage. Je t'aide. Je suis avec toi et je ne te délaisserai pas. Reste sous ma conduite et tu verras que tout ce que je t'ai promis, je l'accomplirai avec merveille. De tout temps, réjouis-toi que maintenant tu es mon enfant et que tu vas de l'avant par ma puissance, car je suis la vie. Et j'ai pris demeure en toi, et toi tu es mon fils. Je t'ai appelé pour révéler aujourd'hui, dans ta vie, ma grâce et ma gloire. Voilà ce que le Seigneur me disait alors que j'étais encore dans l'eau du baptême, qui me faisait, qui me permettait de voir que ma filiation avec Dieu était nouvelle, était forte. J'étais son fils, il était mon père. Et que si je restais sous sa conduite, il allait conduire et diriger les choses. Et cette parole prophétique laissait aussi entrevoir mon service avec lui, pour lui. Avec Daniel, lorsque nous avons su que le Seigneur nous appelait à partir de l'île, on a dit « Oui, Seigneur, ok, on va partir de l'île puisque tu nous demandes de partir, mais pour... aller où et pour faire quoi ? » Je vais vous faire une version un peu courte, hein, parce que j'ai conscience que le temps passe. De août jusqu'en avril, soit 9 mois de prière à raison de 2 ou 3 fois par jour, je venais vers le Seigneur en lui disant « Seigneur, que veux-tu de nous ?» La prière était pas énorme, elle était courte, mais c'était régulier. 2, 3 fois par jour, 4 fois par jour. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de nous? Mais il a fallu attendre. Je vous dis du mois d'août jusqu'au mois d'avril. C'est long. J'aurais pu abandonner avant, hein, mais c'est ça aussi la persévérance, c'est de continuer. Et là, tout d'un coup, un matin, j'ai eu une visitation de l'Esprit-Saint qui me montre des choses plutôt grandioses que je ne vous partage pas. Et je dis au Seigneur, mais Seigneur, c'est tellement grand, ce que tu es en train de me dire, c'est même pas possible, quoi, c'est même pas envisageable. Enfin bon, je veux pas dire que c'est n'importe quoi, mais c'était pas possible. Et donc, je continue à prier en disant, il y a quelque chose qui manque, Seigneur. Et là, je continue, mais montre-moi, Seigneur, il doit y avoir un complément quelque part. Et ça dure 8-10 jours jusqu'à ce que l'Esprit-Saint revienne me voir pour me dire, mais Bernard, ce dont je t'ai montré va commencer par la fondation de nouvelles églises. Bon, ben alors là, c'était déjà plus clair. Fallait implanter une église, et puis d'autres peut-être aussi. Mais bon, c'était déjà plus envisageable. Et j'ai quelques jours après, il y avait une rencontre de pasteurs. C'est un pasteur de Nouvelle-Zélande qui avait un ministère prophétique. Et quand on a été avec Daniel pour recevoir la prière, il m'a dit ce que moi j'avais reçu dans ma chambre, même la première partie. Voilà ce à quoi Dieu t'appelle, quoi. Ah, c'était encourageant. Mais 40 ans après, je ne suis toujours pas rentré d'une manière concrète dans ce que le Seigneur m'a dit la première fois qu'il est venu me voir pour me parler des choses grandioses. Et j'ai été tellement frustré pendant si longtemps et je comprenais pas parce que en même temps je me disais bon Bernard t'as certainement dû te tromper etc. Même si le pasteur de Nouvelle-Zélande t'a confirmé, mais c'est que à chaque fois que j'allais au Canada, aux États-Unis, en Afrique, en Angleterre ou ailleurs, il y avait toujours quelqu'un pour me dire ben, voilà ce à quoi le Seigneur t'appelle. Je me disais, punaise, mais c'est, ça revient à ce que, à ces choses grandioses que, enfin, que je peux pas imaginer vivre, jusqu'à ce que, il y a peu de temps avec les gilets jaunes, là, tout d'un coup, le Seigneur m'a permis de comprendre. M'a dit, toi, Bernard, les gilets jaunes, ça va changer la société. Il y a des choses qui vont changer. Et ce à quoi je t'ai appelé, mais pour l'instant ne s'est pas encore réalisé parce que la société dans laquelle tu es n'est pas encore prête pour que tu puisses vivre ce ministère, cet appel qui est le mien vis-à-vis de toi. Vois Bernard, je ne me trompe pas dans le timing. C'est jamais trop tôt, c'est jamais trop tard non plus. Et même si ça fait 40 ans que tu attends, mon timing est toujours juste. Et là, de repenser à ces exemples bibliques, vous savez, lorsque le pays d'Israël, le peuple d'Israël, il faute, il n'est pas bien, etc. Et Dieu décide de lui donner un sauveur ou un leader, etc. Mais des fois, je me dis en lisant, mais comment ça se fait que Dieu ne prend pas déjà quelqu'un qui est là? Ben non, par exemple, pour le prophète Samuel, ben il attend que une femme qui s'appelle Anne soit frustré de sa stérilité, soit en conflit avec l'autre femme de son mari, toute une histoire jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, voilà, elle va donner enfanter un fils, et donc elle enfante un fils qui s'appelle Samuel, mais il faut que Samuel grandisse. Moi, dans ma conception, c'est, mais claque des doigts, Seigneur, fais en sorte que quelqu'un qui est déjà là puisse... Ben non, là, ça a été loin. Mais c'est pareil avec Samson, par exemple. Il a fait la même chose. Il va voir la femme de Elkana pour lui dire, tu vas mettre au monde un fils, il faudra pas que le rasoir passe sur ses cheveux, etc. Enfin bref, mais... Ah, Seigneur, pourquoi t'es si long? Claque des doigts. Mais non... Mon timing est toujours le bon, dit le Seigneur. C'est jamais trop tôt, c'est jamais trop tard. C'est plutôt à nous de vivre le timing de Dieu et non pas de demander à Dieu de vivre notre timing à nous. Une autre parole reçue et oubliée, alors qu'on était en train de venir de Lille à Angers, je me rappelle encore, hein, c'était à la chapelle Saint-Lô, après Sèche-sur-Loire, là. Seigneur me disait, je te donnerai la responsabilité des 3 aumôneries protestantes à Angers. Ah, Seigneur, je suis en train de déménager, je connais personne. Comment tu veux que je sois aumônier? Et aumônier de quoi? Mais oui, alors, pas faire trop long, mais là encore, le Seigneur a permis que je sois aumônier de prison pendant 24 ans, tout en étant aumônier aux armées pendant 15 ans. Et là, je suis, depuis 30 ans, aumônier... au CHU, les cliniques, l'hôpital psychiatrique, c'est le Seigneur quand il dit, il fait. Bon, je veux pas parler des locaux ici que nous avons, mais là aussi, ça a été tellement miraculeux, conduit, dirigé. Ce bâtiment, quand même, juste pour dire deux mots, ce bâtiment était loué. par un contrat, un bail en 369, un bail commercial, et ça faisait même pas un an que il était loué, mais le gars qui louait, il payait pas, et donc avec Daniel, on avait tellement visité de choses. Donc on est passé une fois devant, mois de juin, j'ai regardé, oh c'est grand, etc. Et en téléphonant au notaire, le notaire a dit, ben non, c'est pas possible, il y a un bail commercial. Donc, mais après les vacances, venez, prendrai rendez-vous. Et donc, après les vacances, au mois de septembre, il prend rendez-vous avec moi, mais en même temps avec les propriétaires. Et mais je comprends que finalement le locataire ne payait pas ses locations et le notaire il nous a reçu en disant écoutez je suis en fin de carrière, je n'ai jamais vu ça. J'ai reçu ce matin un courrier recommandé, une lettre recommandée, et c'est le locataire qui se désiste de sa location. Donc maintenant, c'est en libre d'achat. Vous pouvez l'acheter puisque... alors les propriétaires ont dit, mais nous, nos loyers, ils disent ça, c'est autre chose. Mais vous pouvez vendre à monsieur pour que... Et ils puissent en faire une église. Alors, même qu'à un moment donné, ils m'ont demandé de partir, ils m'ont rappelé 10 minutes après, et finalement, le notaire avait fait baisser le prix sans que je ne marchande rien du tout. Bon, voilà, c'est juste pour dire que quand le Seigneur veut quelque chose, il le fait à merveille. Voilà, et puis... pour parler encore de paroles prophétiques, comment ne pas oublier, mais j'avais moi oublié une parole prophétique. J'étais dans le sud de la France à enseigner. Je suis allé voir quelqu'un que je connaissais de Lille. On a mangé ensemble et puis au moment de partir, là dans le vestibule, juste avant de partir, il me dit « Attends, j'ai une parole du Seigneur pour toi ». Et il me dit « Le Seigneur va se servir de toi pour parler ». Au ministère de la justice. Alors, je dis, écoute, moi je suis un petit pasteur d'une petite prison, je suis pas connu, bon. Bref, si, je t'assure, le Seigneur me dit qu'il va se servir de toi parce que tu auras quelque chose à dire au ministère de la justice. Bon, voilà, je pars, je le quitte là-dessus. Et puis j'oublie, mais j'oublie et... ce qui s'est passé, c'est que des années après, à la prison, je rencontre un gars qui s'appelle Gérard. Il voulait juste savoir pourquoi Israël, qui était un si petit pays, faisait parler de lui autant dans les médias, mais il était ni rabbin, ni puis il n'était pas religieux. Enfin bref, Gérard, c'était un braqueur de banque professionnel, on va dire, hein, à l'âge de... 14 ans, il avait été enfermé pour la première fois parce qu'il avait piqué des bouteilles de champagne. 6 bouteilles de champagne, 6 mois de prison. Donc il disait avec humour, heureusement que c'était pas des boîtes de petits pois parce que s'ils avaient compté autant de mois ou autant de jours que des petits pois, enfin bon. Ça... Et puis il s'est tourné vers le Seigneur, ce Gérard, mais c'est que... son problème, c'est qu'il était malade, enfin, il avait le sida, et à cette époque-là, la trithérapie n'existait pas. Et un jour, parce qu'ils l'ont déplacé de prison en prison, dans la grande région, à chaque fois, j'allais le voir ailleurs, et puis, ce jour-là, je vais le voir, et puis il me dit, attends, je te vois presque plus, je deviens aveugle. Bon, en tout cas, il était vraiment très mal. Donc, en rentrant à la maison, j'ai demandé à Daniel et puis aux trois aînés, est-ce que vous me permettez de faire des démarches pour que Gérard puisse mourir à la maison plutôt que de mourir à la prison? Alors ils m'ont dit oui, je suis très reconnaissant, hein, en disant ça, je suis ému de voir combien Daniel et puis les trois, vous avez accepté de prendre quelqu'un qui avait le sida. À l'époque, on savait même pas s'il fallait désinfecter ou pas les couverts. La trithérapie, je vous disais, n'existait pas. Donc j'ai fait une demande au ministère de la Justice, j'ai écrit un courrier pour demander une libération conditionnelle. Ça voulait dire tant qu'il est en forme, il va au commissariat, il signe, un suivi judiciaire, pourquoi pas, mais laissez-le sortir pour qu'il vienne mourir chez nous à la maison plutôt que de mourir à la prison. Et puis il n'y a pas eu de réponse pendant des mois. Ce sont d'autres détenus qui ont écrit au président de la République pour dire mais notre pote est en train de mourir, il y a le pasteur de l'Épine à Angers qui veut bien le recevoir, on demande sa libération. Alors ils ont envoyé ça au président, ils étaient plus de 300, mais ils ont envoyé ça aussi aux médias. Les médias sont venus chez nous, TF1, France 2, France Info, la presse, etc. Et puis ça a fait le buzz. Le pasteur de l'Épine demande à ce que ce détenu soit libéré pour venir chez lui. Pendant un jour, deux jours, il y a ce buzz. Et puis le troisième jour, je reçois le courrier du ministère de la Justice qui dit non, c'est pas possible qu'il soit libéré par anticipation parce que la loi n'existe pas. La seule possibilité que ce monsieur a de sortir, c'est une grâce présidentielle. Parce que la conditionnelle médicale n'existait pas. Alors, je fais revenir France Antenne 2, France 2, là, en disant, écoutez, vous n'avez pas passé votre reportage, venez voir. Et donc, ils ont filmé le courrier, et c'est de nouveau le buzz. Le ministère de la Justice ne veut pas le libérer, etc. Bref, ce qui fait que le président de la République, Le Graci, on me téléphone... un jour, un après-midi, monsieur le pasteur venait chercher Gérard, il vous attend à la porte de la prison, il était à Nantes. À la maison, on prend le repas et Gérard me dit « pince-moi, c'est surréaliste pour moi, je suis là en train de manger avec ta famille alors que je vais mourir en prison ». Mais ce qui s'est passé, c'est que il y a à peu près 80 députés de tous bords politiques qui ont signé, qui ont dit « mais le pasteur de l'Épine a raison, c'est indigne pour un pays comme la France de laisser mourir des personnes détenues en prison. Votons une loi pour que il puisse y avoir des conditionnels médicales comme il le demande ». Et finalement, c'est ce qui se passe, c'est qu'à partir de là, ils ont voté une loi qui permette aux détenus de sortir d'une manière anticipée pour qu'ils puissent mourir dehors et non pas à l'intérieur de la prison. Je vous parle de ça parce que c'est une parole prophétique, mais que j'avais, non seulement que je n'avais pas accepté, mais que j'avais complètement oublié, c'est... quelques mois après que le Saint-Esprit est venu me revoir pour me dire « Tu te rappelles, Bernard, dans le vestibule, il t'avait prophétisé cela. Ok, t'as pas tenu compte, mais moi, j'ai fait quand même. » Waouh, quelle aventure. Le Seigneur nous a fait vivre des aventures. Allez, je voudrais avancer... pas vraiment dire conclure, mais quand même, pour vous parler de belles choses, il y en a d'autres avec la vie surnaturelle, des choses que je vis personnellement avec Jésus, avec le Seigneur. Alors devant l'incompréhension, voire l'incrédulité, les critiques entendues à la suite de tels partages spirituels, Daniel m'a dit, ou m'a donné en tout cas ce conseil, écoute, il y a des choses, toutes choses, même si elles sont fortes, elles sont pas bonnes à dire parce que tout le monde ne va pas forcément comprendre ce que toi tu vis sur le plan personnel. Donc voilà, j'ai accepté juste que il y ait des choses dont je ne vous parlerai pas parce que voilà, pas parce qu'il faut les vivre quoi. Voilà. À Vichy, durant une nuit, j'ai clairement et audiblement entendu la voix du Seigneur qui m'appelait. Il m'a réveillé. Il n'y avait personne. Je comprends que le Seigneur qui m'appelle. Je lui dis oui, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Et là, tout d'un coup, dans mon souvenir, je sens une présence tellement forte, d'une telle intensité et surtout une telle sainteté que j'en étais littéralement écrasé. J'ai tout fait, j'ai eu peur, et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, stop, arrête, éloigne-toi de moi, parce que je tiens pas devant ta sainteté. Et il est parti. Pendant longtemps, j'ai prié pour voir des anges, et il m'accorde cette grâce. Alors, pas toutes les semaines, pas tous les jours non plus, hein, mais... Voilà, j'ai été très impacté par ce que j'ai vécu ici, une fois qu'on parlait, on priait pour un couple, une famille de musulmans au Maroc qui étaient persécutés pour leur foi. Et là, alors qu'on était tous debout à prier, je vois, alors je sais pas vous expliquer pourquoi, mais je vois 200 anges en armure, et quand on avait fini de prier, mais je les vois partir en direction du Maroc, et je suis tellement bouleversé par ce que je viens de voir. J'écris rentrant chez moi un mot par email à ce frère qui me dit mais c'est à quelle heure. Je lui dis, il dit mais c'est exactement l'heure à laquelle nous demandions en famille au Seigneur d'envoyer des anges pour nous protéger. Waouh. Et voilà, le Seigneur me donne de voir des anges. Voilà, je suis pas trop mystique, hein, je suis pas trop perché, mais comment ne pas vous parler de délivrance démoniaque? On a prié pour des gens qui étaient possédés. On a eu des combats, des luttes avec, et des fois des conversations avec des démons qui étaient là et qui disaient ben non, on va pas sortir, etc. Mais au nom de Jésus-Christ, t'es obligé de sortir parce que le nom de Jésus-Christ a vaincu les puissances démoniaques à la croix, et on a vu et on a vécu avec Daniel des délivrances tout à fait particulière. Et en parlant d'ange, c'est à la Flèche, c'est pas très loin, on a prié pour une dame qui était comme ça, elle avait été offerte aux puissances démoniaques, à une puissance en particulier qui est une entité très forte, et qui disait ben non, elle m'appartient, elle m'a été donnée, etc. Et donc il a fallu qu'on fasse attention à ce que la personne ne se défenestre pas, etc. Mais elle a, après tellement d'années, elle a été délivrée. On a eu des délivrances ici. Enfin bon, le combat spirituel avec des entités démoniaques nous permet de voir qu'il y a un monde spirituel que nos yeux ne voient pas, mais c'est là, et le Seigneur nous permet en son nom de prier pour que des personnes puissent être délivrées. Je viens de sortir mardi dernier, je suis sorti d'un jeûne de 40 jours, c'est pourquoi je suis un peu maigre, je suis pas malade, rassurez-vous. Si j'en parle, ce n'est pas pour me mettre en valeur ou recevoir les honneurs, parce que ce que je veux dire, c'est en parlant de ces 40 jours de jeûne, c'est que je crois que le Seigneur veut parler à la génération qui vient en disant je vais vous demander de prendre plus de temps dans le jeûne et la prière. Il va appeler plus particulièrement la jeune génération mais les autres aussi, à se tenir devant lui dans des jeûnes similaires et probablement répétés. Je vous dis ça parce que c'est prophétique. Et vous devez savoir que jeûner 40 jours, c'est possible. Je n'ai pris que d'abord de l'eau pendant une dizaine de jours, puis après j'ai eu la bouche sèche, donc j'ai plutôt pris des jus de fruits sans vitamines, voilà, jusqu'au bout, mais pas de nourriture, si ce n'est du pain, de seine, parce que je prenais la seine pratiquement tous les jours. Mais c'est encore autre chose. Donc voilà, c'est pas le premier jeûne que je vis. J'ai déjà vécu 3 autres jeûnes. Voilà, le Seigneur me dit, mais la scène, c'est comme un repas d'amoureux. Vous savez, quand on met un repas d'amoureux, ça nous arrive plus souvent, mais avec une bougie, un repas aux chandelles, en amoureux, et la scène, c'est entre lui et moi, entre moi et lui, mais parfois aussi en église, entre nous et lui, on vit cela. Et alors que j'étais dans un temps de jeûne, je remerciais le Seigneur de m'inviter à ce repas en amoureux avec lui. Je suis honoré, heureux de passer du temps avec lui. Et puis, tout d'un coup, sans prévenir, je ressens en pensée que ce repas serait de scène, serait pas comme les autres. Et qu'il y aurait d'autres invités. Voilà, et puis avant de prendre du pain, je demande aux anges du royaume de Dieu de descendre ici dans cette pièce avec moi et avec nous en grand nombre. Et puis tout d'un coup, j'ai l'impression d'avoir été entendu au point que dans cette pièce de 10-12 mètres carrés où j'étais tout seul, ben finalement je me suis senti serré à l'étroit, tellement il y avait du monde dans cette pièce alors que j'étais le seul humain. Je demande à ce que ce moment soit inscrit dans les cieux. Je prends mon chauffard, je souffle dessus et dedans, et je suis littéralement projeté, terrassé à 4 pattes sous une onction qui m'envahit de l'intérieur, qui m'entoure, qui me couvre. Je suis essoufflé, je respire fort, le temps passe, je ne sais pas combien de temps je suis là, resté par terre. C'est d'une telle intensité, la présence d'Élohim, la présence du Père, la présence du Fils, la présence de l'Esprit-Saint est tellement palpable. Je ne peux pas vous dire plus, parce que c'est quelque chose qu'il faut vivre. J'arrive pas à décrire, mais c'est fort, c'est grandiose, c'est prenant, c'est surnaturel, c'est extraordinaire, quoi, à vivre. Je vous dis ça parce que je veux vraiment contrebalancer les temps de souffrance, de difficulté, de trahison, etc. Avec ce type de c'est pas même des expériences, parce qu'il s'agit pas d'expériences, il s'agit de choses vécues dans l'intimité, dans l'amour avec Dieu. Et je voudrais vous dire, il y a tellement de belles choses à vivre avec le Seigneur. Waouh, c'est vraiment extraordinaire. J'ai aussi été impacté par une parole prophétique d'un Américain qui est venu à Poitiers. On avait une pastorale et là il me dit, toi tu, il me dit, je lis hein, pour pas me tromper, l'ennemi a essayé de te cribler comme du blé. Il n'est pas venu sur toi une fois, ni deux, mais 3 fois. Il y avait vraiment un effort de concentration pour te détruire. Même la mort est venue à la maison, mais tu es là parce que tu es un survivant. Il y a beaucoup de mon peuple, d'Israël, qui a été tué pendant l'Holocauste, Mais toi, mon fils, tu as traversé un holocauste, mais tu es là, tu es comme un survivant. » Et puis il continue pour me parler d'avenir. Pendant des mois, j'ai prié en demandant au Seigneur, « Mais pourquoi tu me dis ça ? Pourquoi tu me dis que l'ennemi s'est acharné sur moi et que j'ai failli mourir trois fois ?» Effectivement, c'est assez facile. Il y aurait peut-être même plus que trois fois d'ailleurs, hein, avec les gens qui voulaient me tuer, que ce soit à Lille ou du côté de Montauban, que ce soit ma mère, ou que ce soit un accident de voiture, parce que mon père... Ben oui, je comprenais pas pourquoi mon père ne pouvait pas rentrer chez ma grand-mère, chez mes grands-parents maternels. Et bref, pour être court, ce jour-là, ma mère, alors j'avais 11 ans, ma mère, on lui a dit pourquoi. En fait, il se trouve que mon père a eu une relation sexuelle avec la sœur de ma maman et qui est tombée enceinte et ma maman savait pas du tout, voilà, et l'accusé c'était mon père, donc il pouvait pas rentrer à la maison. Et quand on est parti chez nous en voiture, ma mère elle pleurait, et j'entends encore mon père dire si t'arrêtes pas de pleurer, je fonce dans le platane et on meurt tous. Oh. Ouf, ça fait un drôle de choc, hein. Dans la voiture, nous étions 6 dans cette voiture-là. Bref, mais quelques kilomètres plus loin, il a fait un dépassement hasardeux, il a voulu se rabattre, et puis finalement, la voiture a fait elle est tombée dans un ravin, elle a fait des tonneaux, et elle s'est arrêtée juste au bord d'une rivière. Une de mes sœurs et pour moi-même, nous avions été gravement blessés. Et si la voiture avait fait encore un tonneau ou un demi-tonneau, on aurait été dans l'eau et on serait mort noyé parce que... bon, enfin bref. Donc, Seigneur, pourquoi tu me dis que j'ai failli mourir trois fois ? Je le sais. Et donc, pendant des mois, j'ai prié pour avoir la réponse du Seigneur. Seigneur, mais je sais déjà pourquoi, je sais déjà, j'ai failli mourir, mais pourquoi tu es en train de me dire ça? Et puis, plusieurs mois après, c'est le Père Céleste, qui vient répondre à ma demande. Ça m'a tellement impacté, ça m'impacte tellement encore aujourd'hui. Je le dis avec beaucoup d'émotion. Voilà la réponse que le Père a fait. M'a fait Bernard, lorsque je t'ai vu dans le ventre de ta mère, j'ai dit à ceux qui étaient autour de moi, aux anges et à mon fils, j'ai dit à ceux qui étaient autour de moi, je l'aime bien ce petit gars-là. S'il n'est pas avec nous durant l'éternité pour faire la fête, il va manquer quelqu'un. Et moi de répondre au Père, mais... Seigneur, tu es sûr de ne pas te tromper de personne? Tu vois, je suis loin d'être parfait, je suis même foireux parfois, un peu tordu. Mais le Père m'a répondu la même chose. Bernard, je t'aime depuis toujours. Je t'ai gardé pour me faire connaître à toi et je te dis, si tu n'es pas avec nous pour faire la fête durant l'éternité, il va manquer quelqu'un. J'étais consterné, ému, je le suis encore maintenant. Comment mériter? Mais il n'y a aucun mérite. Qu'est-ce que vous voulez qu'un embryon mérite? Il a juste besoin de protection. Et le Seigneur m'a gardé, m'a protégé. Seigneur, qu'est-ce que... Père, qu'est-ce que je peux faire? Ben, tu peux rien faire, juste accepter la grâce qui t'est faite. Juste accepter, aucune possibilité de t'enorgueillir, tout est grâce, tout est immérité. Ça c'est mon Père, c'est mon Père céleste, c'est le Père que j'aime, c'est le Père qui m'aime, c'est le Père céleste avec qui j'ai une relation. Je n'en suis pas digne. Mais j'accepte. J'accepte avec émotion. J'accepte avec un certain sens solennel. Waouh, Seigneur, je mérite pas, mais j'accepte. Puis il y a donc quelques versets importants pour moi qui, je vous ai dit déjà, hein, l'un qui est sur le bureau de mon ordinateur. Il y en a d'autres que je vous cite. Dans Luc chapitre 6, le verset 40, dans la traduction Parole vivante, un disciple ne surpasse jamais son maître, mais lorsque sa formation sera achevée, il lui sera en tout point semblable. J'y suis pas encore arrivé, mais c'est là sur l'ordinateur pour pas oublier que le but c'est d'être semblable à Jésus. Verset qui n'est pas sur le bureau, mais que j'ai souvent et que je prie, c'est le psaume 139, le verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Un autre verset qui m'est cher, qui se trouve dans Jérémie au chapitre 12, le verset 5, il est dit, ou il est parlé, ou si je le transcris un petit peu, je dirais, Bernard rivalise avec le cheval. C'est comme si le Seigneur dit, mais allez, tu es sur la ligne de départ, vous savez, dans les boxes là, et puis à un moment donné, les trucs s'ouvrent, les chevaux s'en vont, vous avez certainement vu ça à la télé. Et donc, il m'a mis à côté d'un cheval, et puis son box, le mien, s'ouvre en même temps, la barrière, et puis ce que Dieu me demande, c'est que je cours pour non rivaliser avec le cheval, mais il veut pas seulement que je rivalise avec le cheval, il veut que je gagne. Il veut que je gagne sur le cheval, mais Seigneur, c'est complètement dingue comme truc. C'est complètement fou. C'est franchement pas possible de rivaliser avec un cheval. Et pourtant, le Seigneur dit, mais Bernard, c'est ça que j'attends moi dans la vie des disciples. C'est qu'ils puissent rivaliser avec le cheval, c'est-à-dire qu'ils puissent vivre des choses impossibles. Regarde Bernard. À l'âge de 15 ans, tu savais pas lire. Maintenant, tu es enseignant de la parole. Bernard, tu étais un cas social. Même au début, dans l'église, personne ne croyait en ma transformation. Mais regarde, quand tu es invité par le maire, par le préfet, par des députés... C'est des choses de l'impossible. Regarde, Bernard, l'histoire de Gérard, que tu es, c'est toi que j'ai choisi pour être à l'origine d'une loi permettant aux détenus en fin de vie de pouvoir sortir. Bernard, c'est ça, rivaliser avec le cheval. C'est de vivre des choses qui sont impossibles humainement, mais que par mon esprit, je te fais vivre. Rivalise. Bernard, avec le cheval, et je vous le dis à chacun d'entre nous ce soir, le Seigneur t'appelle, toi aussi, à rivaliser avec le cheval. Et puis, cet autre verset que quelqu'un m'a donné dans un séminaire qui est sorti de Deutéronome 33:12. Donc la personne a changé juste le nom de qui il s'agissait et elle a mis sur son papier qu'elle m'a donné pour Bernard. Le Seigneur dit, aimé de l'Éternel, il demeure en sécurité auprès de lui, ce Dieu qui le protège continuellement, qui habite lui-même entre ses deux épaules. Waouh, c'est vraiment fort. C'est Waouh, Seigneur, tu résides entre mes deux épaules. Je comprends pas tout, mais je l'accepte avec reconnaissance, avec joie. Donc je vous dis, c'est une réelle joie et un honneur de connaître Jésus et de marcher avec lui, de marcher dans ses pas comme disciple. Voilà, et comme Dieu et comme l'Esprit est toujours en mouvement, ben moi aussi j'ai toujours envie d'être en mouvement. Je ne souhaite pas m'installer ni dans ma vie personnelle, ni dans mes conceptions de pensée, ni dans ma vie spirituelle, encore moins dans ma vie de service avec Dieu. Oui, Seigneur, s'il se révèle encore, ben je souhaite recevoir ces révélations. S'il y a de nouvelles compréhensions à trouver, ben je souhaite les recevoir. S'il y a un nouveau vase qui doit être façonné, ben Seigneur, façonne, mais je veux pas être celui qui est statique, qui est mort. Je souhaite vraiment vivre avec l'action, l'onction de l'Esprit Saint. Je continue à être 50 ans après, puisque c'est le jubilé, je reviens là-dessus. Depuis 50 ans que je marche avec le Seigneur, je souhaite marcher encore avec lui, toujours de progrès en progrès, de vie en vie qu'il me fait vivre. Non, je veux pas m'installer ni rester statique. Seigneur, je te veux encore, je te veux toujours. À la maison de prière, le jardin des parfums, là, qui pour l'instant se réunit dans nos locaux, dans les locaux de la communauté du Colombier. On espère qu'un jour on pourra avoir un lieu externalisé pour que les chrétiens des autres dénominations, ou pas dénominations, enfin en tout cas pour que les gens viennent prier dans ce lieu. Nous demandons à ce que dans cette maison de prière on puisse recevoir de nouvelles compréhensions, et nous le faisons aussi dans un autre groupe qui s'appelle Levons-nous et rebâtissons, qui est inspiré par Néhémie. Oui, on se dit dans cet endroit comme dans l'autre, il y a encore tellement d'aventures à venir et à vivre. Même mort, je voudrais encore être utile. C'est pour ça que on a demandé, on a déjà fait un espèce de testament pour nos enfants là, et sur ce testament, on voudrait que sur notre tombe soit mis une épitaphe, un peu dans ce style-là. Ça peut changer, mais c'est un peu ça. C'est notre vie durant, nous avons aimé avec passion le Christ Jésus qui nous attend enthousiasmés. Et vous ? Mais même mort, on voudrait encore servir à ce que des personnes s'interrogent sur leur vie, sur leur vie en Jésus-Christ, sur leur foi ou leur non-foi, et que cette épitaphe mise sur notre tombe puisse provoquer la réflexion, mais aussi des conversions, et que là, alors que les gens s'arrêtent pour lire cette épitaphe et qui peut-être disent ah ben tiens c'est ils sont drôles ou c'est marrant ou c'est n'importe quoi, ben que là le Saint-Esprit agisse dans leur cœur et qu'ils se convertissent. Je conclus ce témoignage par l'exaucement de prière que je considère comme étant le plus spectaculaire pour moi, le plus important, parce qu'il a tellement impacté, il impacte encore ma vie. C'est le mariage avec Daniel. Fils de divorcé, très tôt après ma conversion, j'ai fait cette prière. Seigneur, choisis toi-même pour moi l'épouse dont j'ai besoin pour vivre et aussi pour te servir, conscient que le service allait être un peu particulier. Cela m'a valu d'ailleurs plusieurs déceptions sentimentales, en particulier avec deux sœurs avec qui nous avions des projets missionnaires. Et j'entends encore le pasteur avec qui je travaillais parmi les marginaux à Montauban. Un matin, il m'a dit « Le Seigneur m'a parlé pour toi et il me dit ceci, je t'enlève cette relation pour te donner le double. » Mais je lui ai répondu « Je m'en fous du double, c'est elle que je veux. » Mais bon, j'ai revu 35 ans ou 40 ans après cette fille, Et elle me disait qu'elle n'aurait jamais pu vivre le ministère avec moi. Sage-femme, d'ailleurs, elle n'a pas pu continuer non plus à être en Afrique parce que l'hygiène, lui, ça n'allait pas. Et voilà, elle a continué son métier de sage-femme. Elle s'est jamais mariée. Ce que je veux dire par là, c'est que le Seigneur sait et il connaît ce dont nous avons besoin. Et quand je lui fais cette prière alors que je suis tout jeune, Seigneur, choisis toi-même l'épouse dont j'ai besoin. Il savait de qui j'avais besoin. Il savait avec qui je pouvais vivre ma vie sentimentale et de service. Il m'a pris au mot, le Seigneur, dans cette prière. Et il a fait bien plus que ce que je pensais. J'aurais jamais imaginé pouvoir vivre autant d'aventures, de joie, de bonheur avec quelqu'un, et donc avec Daniel. Voilà, je serais pas le même homme sans toi, chérie, ni d'ailleurs sans mes enfants qui chacun ont pris part à ce que je suis. Et notre mariage, dans le temps en tout cas, on mettait des versets bibliques sur les faire-part, et nous, avec Daniel, nous avions choisi, nous aussi nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. C'est vraiment un verset qui est la base même de notre vie de couple, notre vie de famille, notre vie de service. Voilà, mais merci chérie pour qui tu as été et pour qui tu es. Merci aux enfants, merci à Guillaume, à Fabien. Voilà, c'est pour moi cet exaucement de prière concernant le mariage était tellement tellement important. Bon, bref, je suis conscient d'avoir été très long, mais encore une fois, j'ai voulu, je vous ai pas tout dit, j'ai voulu raccourcir, mais c'est un peu compliqué. Parfois, on me demande si je peux pas écrire un livre, ce qui serait peut-être plus simple. Faudra que je voie, effectivement. Mais j'ai été heureux durant ce temps de partager ces 50 ans de vie d'intimité avec le Seigneur. Les souffrances, les joies, ma vie surnaturelle, la vie surnaturelle avec le Seigneur. Puisse ce témoignage avoir un impact sur votre propre vie. En particulier, j'ai envie de vous dire, ne lâchez rien, persévérez, ça en vaut la peine. J'allais dire, il en vaut la peine, Jésus en vaut la peine. C'est lui qui est toute source de joie et de bonheur. Ce matin encore, je lisais dans une méditation du jour une déclaration que je vous livre. La bonté de l'Éternel m'a touché, sa miséricorde m'a élevé et son amour me conduit vers de nouveaux horizons de conquête. Ouais, c'est vraiment ça, j'ai envie de nouveaux horizons de conquête. Je vous invite à la prière. Seigneur, je te kiffe vraiment. Je te remercie pour ton amour et pour tes grâces qui se renouvellent. Jésus, tu es mon sauveur, je t'aime. Père, je t'adore. Esprit Saint, je veux être malléable pour ce que tu veux faire dans ma vie et au travers de ma vie. Merci pour tout ce que j'ai appris, pour tout ce que j'apprends, pour tout ce que j'apprendrai encore. Merci de m'avoir gardé durant toutes ces années, de m'avoir inspiré la persévérance malgré les douleurs et les souffrances et les incompréhensions. En ce jour de jubilé de baptême, Seigneur, je m'engage tout à nouveau avec toi. Entraîne-moi encore à ta suite. Viens bénir tous ceux qui sont présents. Donne-leur de vivre intensément avec toi. C'est tellement passionnant de vivre avec un père, avec un frère, avec un Esprit Saint si enthousiaste et si enthousiasmant. Béni sois-tu, ô Seigneur. Amen.